Radio Generation.
Et nulle part ailleurs.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour une nouvelle émission de Génération Soccer. Alors ce soir, c'est moi Aurélien qui va animer l'émission. Alors à mes côtés, pour parler de la Ligue 1 et enfin d'émission de championnat étranger, Julien.
Bonsoir
Julien.
Bonsoir.
Habib. Bonsoir Habib.
Bonsoir.
Roméo. Bonsoir Roméo.
Salut, salut, salut.
Hugo. Hugo. Bonsoir, bonsoir Hugo. Et Yac. Bonsoir Yac.
Bonsoir.
Alors, comme je disais en début d'émission, on va revenir en partie sur la Ligue 1 et un peu sur le championnat étranger si on a le temps en fin d'émission. Et puis, un petit quiz également si on a du temps. Alors, avant de commencer l'émission, je vais vous rappeler les résultats du soir. Avec Nice qui a battu Lyon 4-1, avec des buts de Bakayoko, Sissoko, Elwick, Rémy contre Ederson. Bordeaux qui a battu 3-0, Le Mans, un but de Vono contre son camp, Chamac, Bélion. Boulogne qui a perdu 1-3 contre Monaco, des buts de Park, Néné, x2 et Blayac. Sochaux qui a battu Abonnat, Lorient 1-0, un but de Perkis. Valenciennes qui a battu à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne 2-0, des buts de Odel et Ducurtu. Nancy qui a battu Grenoble à Grenoble 2-1, des buts de Djemali contre son camp, Adjizur, Penalty et Luboya. Et Rennes qui a battu lors de l'affiche de 21h. Montpellier 3-0, des buts de Marvaux contre son camp, Sceaux et Gien. Pas contre son camp. Et voilà. Donc on va commencer par si vous voulez bien, Sochaux-Lorient. Sochaux qui a battu Lorient 1-0. Et puis comme j'ai vu le match, et je pense que je suis seul à voir le match, je vais enchaîner en donnant ma petite analyse. Alors, on a pu voir ce soir une belle équipe de Sochaux qui a confirmé son très bon match face à Lyon la semaine dernière à Gerland. L'équipe a été dominateur. On a vu, il y avait Sochaux aligné une équipe jeune avec beaucoup de joueurs sortis de leur centre de formation. Ça a été un beau match à voir. Le score a été 2-0, mais on aurait pu voir un match 3-2, etc. Les deux équipes ont joué, même si Sochaux a mérité la victoire, mais du côté de Lorient, malheureusement, j'ai pas retrouvé l'équipe de Lorient que j'avais vue la semaine dernière face à Nice. Ça n'a pas du tout été ça dans le jeu. Sur le premier but, c'est Odar qui se trouve, la défense qui avait été impériale ces derniers matchs, complètement à l'ouest. Le LAN débordé à chaque accélération de Maurice Bellet. Et puis le milieu de terrain, pas du tout là. Il n'y a que Gamero et Vaiura qui ont vraiment montré quelque chose et ont inquiété les Sochaliens. Sinon, dans l'ensemble, c'était pas intéressant. Et sinon, bravo à Sochaux qui confirme et qui fait une très très bonne opération de classement puisqu'ils reviennent à un point de Lorient. Ils sont, si je ne m'abuse, 9e provisoire à 2 points de Lorient. C'est une très bonne opération. Si vous avez quelque chose à rajouter.
Tu peux nous en dire plus sur les débordements de Maurice Bellet. Est-ce qu'il a été dans un jour de grâce? Ou alors c'est le LAN, je pensais qu'on s'est prononcé le LAN d'ailleurs.
C'est moi qui. Oui.
Je pensais que c'était le pire joueur de Ligue 1, par un moment, il déborde. Comme je l'ai dit, c'est cool ça.
Il déborde, mais ça s'arrête là quoi.
Mais Le Lan n'est pas non plus un des meilleurs latéraux de Ligue 1, donc c'est plutôt Le Lan qui a été pas du tout dans son match et Maurice Bellet qui a été. Mais Bellet a fait une bonne performance dans l'ensemble quand même. Maurice Bellet formé à Monaco si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà. Je me disais bien que dans les quidam de la Ligue 1, il s'est formé quelque part.
Non, c'était l'équipe de Monaco là qui. Où il y avait le petit Christian Val qui était considéré comme le seigneur des seigneurs. Maurice Bellet est en centre de formation. C'était genre, il allait révolutionner la Ligue 1 lui tout seul. Voilà, le temps il déborde, Le Lan. Tolère d'applaudissement pour une carrière bien gérée.
Ah bah pour la petite histoire, c'est un peu personnel, mais j'ai eu la chance de rencontrer Maurice Bellet.
Ah bah voilà. On a des vieilles filles dans cette émission.
Lors d'un match
si on est dans les anecdotes, moi une fois Jesús Navas a voulu me piquer ma place dans un bar, j'ai poussé. Voilà, c'est terminé.
C'est beaucoup plus glorieux. Bon, si vous avez rien à rajouter sur Sochaux-Lorient, va pouvoir passer. Mais
j'ai vu quelques séquences du match et malgré la défaite, Lorient sur quelques phases de jeu, ça jouait vraiment très bien. Mais bon,
la réflexion ça... vide de sens. Mais non, Lorient joue toujours. Il joue quasiment toujours bien, Lorient. C'est pas la meilleure équipe du monde, ça ne sera jamais. Mais au moins, tu te fais pas chier en les regardant. Il y a toujours un minimum de beaux jeux. Donc,
Habib, c'est la première fois que je voyais jouer Sochaux cette saison et ils ont aussi produit un très beau football. Hein, c'est vraiment un bon match de Ligue 1. Pas un match extraordinaire, mais un bon match à voir.
Tu sais, ce jeu, c'est une des équipes que je défends à chaque fois quand en fin de saison, on arrive au fameux débat qui va descendre, qui va rester. Ce jeu, je le défends toujours parce que ils ont une sorte de temps en temps, de délire un peu offensif qui les sont souvent, enfin, surtout ces dernières années. Donc, c'est pas plus surprenant que ça. Mais après, pour relancer juste un petit peu ton analyse, quels ont été les bons joueurs de ce match, côté Lorientais, côté Sochalien.
Côté Lorientais, comme d'habitude, la doublette d'attaque Gamero-Veyria. J'ai bien aimé Dira qui a été remuant sur son côté gauche. Monterubio a fait une belle entrée. À la fin, on a vraiment inquiété les Sochaliens et c'est en partie grâce à Monterubio. Et puis sinon, du côté de Sochaux, moi j'ai adoré Marvin Martin. Et puis sinon, dans l'ensemble, les Sochaliens étaient bons. Mais celui qui m'a surtout marqué, c'est Marvin Martin et puis un Teddy Richard qui a été très bon.
Martin, c'est Monaco, non, aussi. C'est pas Monaco, Marvin Martin.
Mallory Martin, ouais.
Non, c'est Mallory Martin.
Ah, juste.
Attends, on parle de Mallory Martin ou de Marvin Martin?
De Marvin.
Ah, d'accord. De Marvin Mallory Martin. Non, Mallory Martin, c'est celui de Monaco qui était capitaine des moins de 17, des moins de 16. Parce qu'il faut le savoir, le petit Suisse est spécialiste attitré de la radio des sélections de jeunes. De toute façon, comme il y a que là où les Suisses sont bons, donc forcément ils regardent.
Hein. Ah, ils ont gagné au mondial aujourd'hui.
Voilà, c'est ce que je disais. Ils regardent ça parce que de toute façon, les grands ils perdent contre l'équipe du Maroc. Ouais.
Tout à fait. Je crois qu'on a tout dit sur Sochaux Lorient, un bon match de Lorient qui fait une bonne opération. Alors maintenant, on va passer à un autre match. Plus intéressant, c'est Bordeaux qui bat 3-0 Le Mans et qui retrouve Chamac qui remarque, ses attaquants qui remarquent avec Chamac et Bélion qui ont marqué leur but et surtout Bordeaux qui reprend la tête de la Ligue 1. À votre avis?
Yac, je pense qu'il
faut. Bordeaux qui revenait pour le coup là avec l'équipe type, la même que contre Rennes il y a deux semaines. Bon, un match, y a pas eu une grande opposition en face. C'était Le Mans, Le Mans, qui entamait leur pressing super bas, qui en plus de ça perdait beaucoup de duels en défense. Donc voilà, ils ont pas vraiment fait le poids. Ils ont pris un but rapidement et il y a jamais eu de révolte. Donc voilà, un match vraiment, vraiment à sens unique.
Je vais te coter si tu veux pour t'expliquer la suite de ton raisonnement. C'était Le Mans.
Ouais, tout à fait.
Ça se voit vraiment, franchement. C'est
Le Mans, vraiment, vraiment triste. Il y a eu que le Talek sur 2-3 actions qui était assez remuant, assez juste, mais pour le reste, c'est vraiment
triste. D'ailleurs, il devient quoi l'autre grand libérateur du monde français et du foot français, là, le Talek?
Ouais.
Il devient quoi?
Ouais, je sais pas, apparemment il se débrouille bien. Bon, il est à Le Mans, hein, c'est toujours pareil.
Mais ce soir, il n'était pas titulaire, le Talek.
Comment?
Le Talek ne jouait pas ce soir.
Si, il jouait, je confirme.
Ah, si, excuse-moi. Oui, pardon.
Donc, Bordeaux champion. Bordeaux champion.
C'est pas impossible, hein, faut voir. Mais à domicile, ils ont quand même. T'as l'impression que les adversaires ont une certaine peur à les affronter quand ils jouent à Bordeaux. Et ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres équipes qui qui donne une impression de supériorité pareille à domicile. Donc sur la longueur, ça peut faire la différence par rapport aux autres, quoi.
Moi, je pense que tu oublies quand même que Grenoble, ils font... Non, faut pas déconner Grenoble.
Grenoble, oui.
Non, c'est juste ce qu'on appelle un beat cosmique, ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave.
D'accord. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il n'y a plus que deux places de relégables.
D'ailleurs, Le Mans qui est relégable suite à sa défaite à Bordeaux, 18e.
Ouais.
Ce soir.
Ouais.
Ouais. On relancera le traditionnel débat. Qui va descendre, qui va pas descendre, qui va rester, qui va partir. Non, mais moi ça me fait marrer, quoi, parce que c'est encore une fois on a une équipe comme Le Mans qui reste derrière. Hein. C'est bien. C'est le petit côté fun de la Ligue 1, quoi.
J'ai pas aimé la veste de Paolo Duarte ce soir.
Ça, c'est vraiment une réflexion.
Merci, Roméo, merci.
De Roméo.
La note, celle-là.
Ouais, c'est personne. Roméo. J'ai pas aimé la veste de Paolo Duarte. Tu vois le mec qui kiffe tes
photos. Ses chaussures, elles étaient comment?
Non, là, c'est ça. C'est le mec qui fait des photos, des montages avec les différentes coupes de cheveux de Paolo Duarte. Quoi. Ça veut rien
avec
dire.
Paint.
Avec Paint, ouais.
Chut. Bon, je crois que ce sera tout sur Bordeaux-Le Mans. Alors Bordeaux qui reprend donc la tête de la Ligue 1 et à un point toujours cette surprenante équipe de Monaco qui a gagné ce soir 3 à Boulogne-sur-Mer, un but de Parc et un doublé de Nené qui confirme son statut de meilleur buteur de la Ligue 1 avec 10 buts et but de Blayac pour Boulogne-sur-Mer. Alors la question que je vais vous poser, c'est déjà, est-ce que Hugo, tu pourrais me faire un résumé du match de Monaco si tu l'as vu et je te pose comme question, est-ce que Monaco va durer? Moi je pense que oui, vas-y, à toi.
Bah, le match c'était un vrai match de merde comme vous pouvez s'y attendre, hein, une espèce de remix de match de Coupe de la Ligue, Boulogne-Monaco, comme on pourrait imaginer. Il n'y a eu rien, pas de jeu, c'était vraiment... Voilà, je me suis fait chier devant mon petit écran d'ordinateur. Bon, un tir contre un départ qui finit dans le fond des filets. Puis une égalisation de Blayac, qui est le seul attaquant de Ligue 1 que j'ai vu qui ne sait pas faire un contrôle. Le simple contrôle où puis sur le ballon, bah, lui, il le fait pas.
Tu veux que je te donne une liste de joueurs en Ligue 1 qui savent pas contrôler un ballon?
Non, quand je dis qu'il faut pas contrôler le ballon, c'est même une petite.
Non, tu veux, mais moi aussi, hein. Tu veux que je t'en donne, moi?
Vas-y, la même.
Oh putain, je peux même te faire des spéciales avec ceux qui contrôlent avec le tibia, ceux qui contrôlent avec le bassin. Non, mais. C'est malheureusement chose commune maintenant. Hein.
Je sais à qui tu penses.
Oh, je pense à tellement de joueurs.
J'en vois. Puis bon, Néné est arrivé, Néné sur coup franc par deux fois, mais un joli coup franc. Et un deuxième pas mal aussi.
Maintenant Néné, je pense qu'il a quand même pris des petites substances là, parce que moi je l'ai vu l'an passé avec l'Espagnol, il était bon, franchement il était bon, mais irrégulier. Là il est le meilleur buteur du championnat. Il a mis 3 buts à Niang. Il marque toutes les semaines. Il a même. Donc là, en plus, là, j'ai les stats devant moi, donc si tu veux.
Mais il est en Ligue 1.
Lui, il est en Ligue 1.
Oui, mais justement, c'est un milieu gauche qui a mis 9 buts en Ligue 1.
Ouais.
Ça rappelle un petit peu le début de saison 98-99 de. Non, 99-2000, pardon, de Laurent Robert. Tu avais dû marquer 12 buts en 12-13 journées. Puis bon, j'espère qu'il va pas finir comme lui parce qu'il avait, je crois, fini remplaçant. Mais bon, là, c'est quand même assez surprenant ce qu'il fait parce que, comme je te l'ai dit, là, j'ai les stats devant moi et premier passage à Monaco, c'est 29 matchs, 7 buts. Donc là, il a marqué plus en 3 fois moins de matchs. Donc.
Non, c'était 6 buts.
Alors, c'est les stats, donc en gros, c'est coupe, championnat, tout confondu. Non mais voilà, c'est franchement, et de très 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 loin sa meilleure saison. Franchement, c'est surprenant, mais je veux dire surtout parce qu'au-delà du cliché de Néné le Monégasque qui faisait marrer tout le monde, moi j'avais pu le voir déjà l'an passé, puis je le voyais aussi quand il était à Mallorca, à la Veste ou au Celta, et bon, ça a toujours été un joueur capable de bonnes choses, mais pas sur une saison. Alors que là, franchement, Il est vraiment énorme.
C'est pas dit non plus que ça dure toute la saison, quoi, mais...
Enfin, je pense que juste avec ça, il a les stats sauvés pour toute la saison.
Ouais. Mais c'est tout de même un joueur qui a toujours marqué des buts, hein. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je suis à peu près sûr qu'il a mis... qu'il met entre 5 et 10 buts par saison, je me trompe, non?
Non, mais... en Espagne, en tout cas, oui, quasiment tout le temps, il a quoi. L'an passé, il en met 4. Mais sinon, avec le Alavés ou le Celta, ouais, il en met pas mal, mais...
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais bon, c'était en la deuxième division, c'était pas spécialement super. Et puis même à Monaco, je pense qu'il avait fini parmi les 2 ou 3 meilleurs passeurs du championnat.
C'était fini meilleur passeur, je crois.
Voilà, franchement, il avait été très bon. D'ailleurs, il est parti à l'Espagnol parce qu'il avait eu l'embrouille avec je sais plus qui. Je crois que c'était Ricardo ou...
Ouais, il y a une embrouille avec Ricardo qui l'avait fait venir.
Donc voilà, franchement, c'est vraiment le monsieur plus... de Monaco cette saison, et puis pour reprendre un petit peu les chouchous de Khaled, Alepino, les Park Chouyong, tout ça, c'est franchement bon joueur, donc faut voir ce que ça va donner, surtout pour l'instant Gudjonsson n'est pas du tout dans le coup, aujourd'hui il a même pas joué, il me semble.
Je suis blessé aujourd'hui.
Il est blessé?
Ouais, il est blessé.
D'accord. Mais voilà, quoi, je veux dire que... Alors je vois la compo qu'il y a rapidement, là, je te la donne, tu me confirmes. Bon, je parle pas de la défense, mais donc Nkoulou, Gosso à la récupération, Alonso, Koutadeur, Néné au milieu et Park devant, c'est ça?
Ouais.
Donc quand on se dit que ce soir il y avait ni Gudjonsson n'était pas là, Park était pas Park mais Pino était pas là. Tu sais, tu fais rebasculer Koutadeur un peu plus bas, tu fais jouer Gudjonsson en 10, tu peux franchement avoir une grosse équipe. Après la grosse question c'est de savoir s'ils peuvent tenir toute la saison. Certains se sont déjà prononcés en pensant que ça va durer, mais moi je suis pas sûr encore.
Ah, je suis pas sûr non plus.
Il y a quoi, c'était il y a 2-3 saisons où ils font quand même un bon début de saison aussi. Ils sont après une dizaine de journées et après c'est cool totalement aussi. Hein, donc avec Monaco, on sait pas. Le casino, il peut vite faire des bonnes soirées et puis tout d'un coup ça descend le niveau de l'équipe. Faut voir, mais.
Ah, mais le fameux Jimiz.
Ah ouais, et ouais. Ah mais non, mais ouais, bon, Monaco, de toute façon, c'est... Tu t'enlèves Néné, mais tu t'enlèves le manque d'inspiration dans cette équipe. C'est... S'il y a une blessure, déjà, ça deviendrait déjà beaucoup plus dur, mais bon. Ouais, je sais pas, parce qu'avec Guy Lacombe, tu t'attends toujours au pire, et puis après, ça peut tout d'un coup devenir bien sur un malentendu, presque, mais ouais, je sais pas. C'est très, très incertain encore.
Non, bon, je suis d'accord, Monaco, je pense pas qu'ils vont durer, puisque j'ai pu voir Monaco-Lens et Boulogne-Monaco, et franchement, il y a quasi aucun fond de jeu contre des équipes de niveau secondaire, quoi. Contre Lens, c'était en contre-attaque, et ça s'est joué sur des coups de pied arrêtés. Contre Boulogne, c'est à peu près la même chose, ça s'est joué sur des frappes longues. J'ai vu les deux matchs, et je me suis posé des grosses questions, je me dis... Si c'est contre un club de plus grande envergure comme contre Rennes ou contre Bordeaux, on peut facilement s'en prendre 4. Et ce manque de fond de jeu pourra faire la différence. Si Néné n'est pas là, même s'il peut être remplacé par Molo, ou si des individualités ne sont pas là, Monaco sont dans la merde, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression que Monaco, un peu comme le PSG l'an passé, c'est que c'est surtout une équipe de contre. Ils ont des joueurs de contre assez extraordinaires, entre Alonso, Néné et Park. Mais dès qu'il s'agit de prendre le jeu à leur compte, t'as l'impression qu'ils ont un peu plus de mal, qu'il y a moins de mouvement. C'est des joueurs qui ont besoin d'espace, donc sur la longueur, c'est vrai que ça peut coincer un moment, comme ça a été le cas d'ailleurs pour Paris à la fin. Pour d'autres raisons sans doute, mais c'est un petit peu des équipes comparables, je trouve.
Mais moi, j'ai envie de dire que Monaco va durer cette année. Je sais pas pour vous, mais pour avoir vu la saison 2000-2001, la dernière fois que Monaco était en champion, je trouve que cette équipe elle me rappelle 2000-2001. Je sais pas pourquoi, c'est depuis le début de la saison,
j'ai l'impression de le voir. Mais en 9-2000.
Ouais, 2000, excuse-moi. Ouais. Et je sais pas, Néné me rappelle Gallardo, je sais pas pourquoi. Je sens que ça va durer. En plus, j'ai regardé tout à l'heure le classement. Monaco prend comme par hasard la tête est second comme par hasard la 10e journée comme en 2000. C'est vraiment surprenant, je sais pas, je m'avance peut-être, mais en tout cas, j'avais annoncé en rigolant Monaco champion en juillet, mais pour l'instant, ça se confirme, et je sais pas, moi je les vois bien durer, surtout que vous parlez de l'effectif, mais moi je trouve qu'ils ont un bon effectif dans l'ensemble. Je veux dire, il y a pas, en plus, ils ont fait des bons résultats face aux bonnes équipes, je veux dire, il y a, comparé à Bordeaux qui pour l'instant, Bordeaux qui est premier, ils ont comparé à Monaco a battu Paris, Monaco a battu Marseille, quoi. Alors que Bordeaux n'a fait match nul face à Marseille. Et...
Non, mais Monaco, j'ai très vite senti qu'il y avait quand même quelque chose de bon parce que j'étais allé voir le match contre l'Inter en match amical avant la saison. Et c'est vrai qu'on sentait déjà qu'il y avait des repères qui étaient en train d'être pris, plus grenier, ça s'affirmait déjà pas mal. Pino, on sent que c'est le gamin qui peut mettre le feu un peu aux défenses, comme Néné qui était déjà très très inspiré. Et ouais, franchement, il y a une équipe qui est très intéressante. Maintenant, ce qu'il faut c'est trouver un équilibre sur toute une saison et puis pas tomber en sur-régime trop vite. Sinon, ça pourrait vite faire tomber tout être tombé dégringolé et forcément après ça peut s'engrainer, ça peut tomber dans une crise. Mais je pense que si tu, en plus en prenant Coutadeur, en prenant Puy Grenier, en reprenant Néné, et après en misant sur des attaquants qui peuvent être plutôt intéressants, ils se sont refait une colonne vertébrale, ce qui pouvait pas mal manquer à Monaco quand même les saisons passées. C'est fort intelligent, même si on se risquera pas trop pour ma part de dire qu'ils vont être champions ou qu'ils vont être dans les trois premiers. Mais si ça continue comme ça, ça peut devenir un bon outsider pour une place européenne et c'est déjà très très bien pour Monaco qui a besoin de retrouver l'Europe à mon goût. Quand même.
Hugo, tu veux dire quelque chose?
Ouais, bah quand tu parles de ce régime, ça m'étonnerait puisque bon, dans les matchs secondaires, les joueurs ils jouent avec un doigt dans le cul. Hein. Faut pas rêver, mais par exemple, Néné, Alonso et tout, ils ont pas fait un gros match ce soir, ils ont joué à moitié, ils ont pas réussi à déborder, je sais plus, il y avait qui en face comme latéral, mais. C'était pas énorme non plus.
Non mais c'est preuve que si même sans être forcément très bon, ils arrivent à gagner. Ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose qui va mieux, voire même très bien à Monaco et ça c'est tout le mérite est pour cette équipe. Maintenant comme je te dis, si y a un jour où ils se trouvent que quand même en jouant pas très bien ils se prennent une branlée, alors là ça deviendrait préoccupant parce que c'est une équipe qui peut très vite, vu le contexte, la situation géographique, la situation économique, etc. de la principauté, ça peut très vite tomber en engrenage et même s'il y a plutôt de la tranquillité à Monaco, les joueurs peuvent commencer à s'égarer et ça peut très vite retomber très très bas, à l'instar des deux trois dernières saisons monégasques.
Puis sinon, on peut parler un peu de Boulogne, ils avaient quand même un gardien qui venait de Division d'Honneur, qui s'appelle Koné, et puis bon, il était très mauvais en première mi-temps, il s'est bien rattrapé en seconde, mais ça montre prouver le niveau qu'il y a quand même à Boulogne. Hein. Titularisé un gardien qui vient de DH.
C'était pas Valverde ? Pourquoi c'était pas Valverde ?
Je crois qu'il faisait des matchs de merde, alors ils ont préféré prendre Koné. C'est quand même... à ce niveau-là, d'avoir un gardien de division d'honneur qui joue titulaire en Ligue 1.
Et Hugo, tu pourrais, est-ce que toi qui as vu le match, tu pourrais me dire un mot sur la prestation de Fabien Robert, s'il te plaît? Si, il a fait une prestation.
Et... Voilà, il a pas fait grand-chose, j'ai pas trop vu.
Il a éclaboussé la rencontre de son talent.
Et puis la question la plus importante, est-ce que c'est un pote à toi?
Non, du tout. C'est juste un joueur prêté par l'Orient, donc je voulais savoir son niveau, parce qu'il est considéré comme le plus grand espoir que le centre de formation ait jamais porté, donc je voulais savoir
son niveau. Bah écoute,
Oh mon dieu! Encore un libérateur du football français!
Est-ce que tu peux parler du centre de formation de Lorient? Oui. Tu peux parler du centre de formation de Lorient? Qui Lorient a formé ces dernières années de connus?
Bah, Jérémy Morel.
Oh, super!
Après, c'est moins glorieux.
Ou encore Jean-Baptiste Graham-Druillot, Jean-Marc Marc. Et Vincent Bastien.
Vincent Granit qui a joué l'OM.
Oh super, Vincent Granit. Quel souvenir.
Il possède une roulette contre Bordeaux en match amical à son actif.
Vincent Granit, si tu veux, pour les Marseillais, c'est des joueurs comme ça sonne autant que tu vois Thomas Delaune, Yaoui, comment il s'appelle l'autre Blaireau, Michel Gaffour.
Rhys Griezmann.
Michel Gaffour. Voilà. Karim Daou, toutes ces... Ah non, il n'est pas minuit, je peux pas. Après.
Bref. Mais Gignac, il n'est pas formé à Lorient?
Bah en fait, moi je considère que non, puisqu'on allait le chercher à Martigues à 17 ans et qu'il a explosé à 19 ans chez nous, donc c'est pas vraiment une formation, quoi.
D'accord. Ah non, 17 ans, c'est de la post-formation, au mieux.
Mmh. Ouais. Voilà. Donc c'est comme les Marseillais qui disent que Seydou Keïta est formé à l'OM, c'est le cas, vu qu'il est arrivé aussi à 17 ans. Donc. Voilà, voilà.
Non, mais de toute façon, tu sais, c'est comme en Espagne, hein, en Espagne, même téléfoot, hein. Ils aiment bien expliquer que Granero, mais Negredo est formé Real, il est arrivé à 19 ans, tu sais. Il avait déjà joué en deuxième division avec le Rayo Vallecano. Mais, voilà. Ça donne des scandales. Un des scandales.
J'ai oublié, on a aussi formé le célèbre Jocelyn Gourvenec.
Oh, oui. Ça, ah, juste, ça, hein. Ça, il avait pas de tube. Non, je te déconne. Le mec, tout ce qu'il a trouvé de bien à faire, c'est d'éliminer Marseille en Coupe de France avec Angers.
Ah, avec Angers, ouais, tout à fait.
Tout ce qu'il a trouvé à faire, ce coup.
Même Christian Gourcuff n'est pas formé à Lorient. Voilà. Bon, on va passer au match d'après. Alors, on va passer à. Allez, on va aller au fond du classement avec Grenoble qui continue presque de battre les records, puisqu'ils sont à un point des 11 défaites 10, consécutives. Hein.
Ouais, qui sont sans faute.
À un point des défaites consécutives des 11 défaites consécutives de Strasbourg.
D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un strike.
Oui. Grenoble donc a perdu à domicile 2-1 avec encore un but de Luboya et puis un but de Djamali contre son camp et a dû sur penalty dans les dernières minutes. Votre avis?
Bien Grenoble, bien.
Non, mais bon, je crois qu'on espère qu'ils battent le record quand même. Hein.
Sachant que le record français est de 11 défaites consécutives, le record européen est de 12 défaites consécutives, il est tenu par Manchester United en 1938, un truc comme ça. Enfin, je ne suis pas sûr exactement.
Ça, ouais. C'est de la stat téléfoot, ça. Hein. c'est de la stat téléfoot, ça.
C'est la stat Maurice, même.
Ouais. Non, mais franchement, ils me font de la peine, Grenoble. Hein.
Quand tu ils vois Patrick qui pleure après.
Ouais, bah oui, mais moi c'est ça, c'est parce qu'il me fait de la peine. Tu sens que c'est un bon gars, mais. Bon, voilà.
Surtout que ce soir, apparemment, Grenoble aurait mérité de gagner. Que c'est mérité leur défaite.
Ouais. Mais enfin, une équipe qui joue avec César et Djemali dans l'axe, ils méritent que de perdre.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais, puis qui ont fait tard du Boya, quoi. Puis là, d'habitude, on les voyait mener et perdre. Là, on les voit. Non, être mené et perdre. Là, on les voit mener au score, remettre leur adversaire dans la course avec un CSC et perdre le match.
C'est ce qu'on appelle le talent.
Ah ouais, ils vont jusqu'au bout de leur
philosophie. J'ai 38 défaites. Voilà. Et, ouais. Et puis, comme le dit Dan, dédicace à un harpie. Bisous.
Tout à fait.
S'il est encore vivant, parce que là, c'est vraiment plus dur.
Voilà, donc Grenoble qui continue de se renfoncer dans les abîmes de la Ligue 1.
Et dans le ridicule, voilà. Si on peut le dire.
Donc, comment?
Ils s'enfoncent dans le ridicule aussi, ils sont bien là quand même.
Ah, on a un problème avec... Avec
non, c'est toi qui as un problème.
Non, non, ça va.
Dans le ridicule, moi. Ridicule.
Oui, continue dans le ridicule, tout à fait.
Merci, Marvo.
À bien.
cette belle pensée.
J'ai utilisé trois traducteurs pour Aurélien.
Voilà. Donc on va remonter dans le haut du classement avec le match qui intéresse tout le monde, je pense. Avec la surprenante défaite du vainqueur de Liverpool à Anfield, l'Olympique Lyonnais qui a perdu au stade du Ray, 4-1.
Ça veut dire que Nice est meilleur que Liverpool.
Vercoud contre son camp, Elbouic, Rémy et Ederson pour sauver l'honneur de Lyon. Alors, votre avis sur Lyon qui, comme l'année dernière, continue à faire n'importe quoi après les matchs en Ligue des Champions et qui perd de sérieux points dans la course au titre.
Déjà, ça me fait plaisir. Je crois que je parle au nom de beaucoup de gens sur à l'antenne ce soir. Ça me fait plaisir. Et puis bon, le truc, c'est que j'avais pas eu l'occasion d'en parler mardi soir, mais la victoire à Liverpool, voilà quoi. C'est bien mignon de sortir ça, mais le problème c'est que ils jouent un des pires Liverpool depuis très longtemps. Liverpool qui joue sans ses deux meilleurs joueurs, qui a toujours pas réussi à trouver l'équilibre au milieu depuis le départ de Xabi Alonso. Bah, tu sais,
ouais, côté...
Valbuena aussi l'a fait, hein, tu sais.
Donc si on te suit, Habib, Nice meilleur que Liverpool alors. Galsé à gauche est meilleur que Rizzo, par exemple. Enfin, c'est plus Rizzo maintenant.
Et puis oui, hein, Rizzo. Et puis de toute façon, Rizzo, ce qu'il fait à Roma, même Mapiana, il y a match. Hein.
Mais enfin.
Ouais. Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire que ce genre de résultat, c'est typique de l'équipe qui s'est laissée enflammer par une victoire. Plus de prestige qu'autre chose, parce que Liverpool en face était mauvais. J'ai pas regardé de match de Ligue des Champions en milieu de semaine. Je me suis fait une énorme dose le jeudi après-midi. J'ai regardé un peu tous les résumés. Franchement, c'est super mauvais Liverpool en ce moment. Donc, au bout d'un moment, oui, ça reste une victoire en film, mais faut pas lui donner plus de crédit, quoi. Ça me rappelle un petit peu les médias français qui se branlent sur le match nul de Bordeaux, alors que la Juve avait la moitié de son équipe type blessée et marque sur hors-jeu. Au bout d'un moment, faut arrêter de tout le temps être pas chauvin, mais presque, parce que au final, voilà ce qui arrive. Liverpool a été super mauvais, ils sont battus, et puis ensuite, Nice avait les crocs, avait pas peur, ils leur ont mis une branlée.
Bah, le problème, je pense, surtout, c'est que ça se compte sur les doigts de la main, les victoires en Ligue des Champions face à des grosses écuries des clubs français depuis.
Enfin, les victoires des clubs français en Anfield sur les trois dernières années.
Non, je parle de tous les gros clubs européens, ça arrive une fois par an quasiment.
Même une fois par an. C'est pas sûr, mais. Non, mais voilà, je veux te dire que faut pas non plus s'enflammer outre mesure. Pour parler de Lyon, ils ont quand même eu des victoires en Europe beaucoup plus impressionnantes avec la manière, tout ça. Voilà, donc c'est juste pour contrebalancer un petit peu le torrent d'éloges que t'as balancé là, justement.
Lyon qui a une dure semaine en perspective puisque samedi se déplace à Saint-Étienne. Pour le choc Saint-Etienne-Lyon. Puis après, ils jouent à Gerland-Liverpool et après le choc face à l'Olympique de Marseille.
Ça va être chaud.
Ouais.
Trois matchs importants sur leur vrai niveau.
Par contre, juste une question, pourquoi Lloris n'a pas joué?
Et il est blessé aux adducteurs. Et apparemment, il n'était pas le seul. Hein. Gonalon, Toulalan, Vercoutre et je ne sais plus c'est qui le quatrième ont joué alors qu'ils étaient aussi blessés aux adducteurs et n'auraient
pas joué. Ouais, ça c'est les excuses à la française. Hein. J'ai joué mais j'étais blessé. Tu sais.
Je pense que.
Non, juste non, pour te donner une idée. Il y a sa première saison à Barcelone, il joue 6 mois infiltré. Il avait un déplacement des disques, des vertèbres. Je ne sais pas si quelqu'un a eu l'infortune d'avoir ça. J'ai malheureusement eu le cas, vu que j'ai des problèmes de dos récurrents, je peux te jurer que tu souffres comme un damné. Il a joué 6 mois comme ça.
Bah, donc, les adducteurs, c'est pareil. Hein.
Non, mais je sais, mais au bout d'un moment... Non, excuse-moi. Les adducteurs, si c'est grave, tu peux pas courir.
Ah, tu cours 2 minutes, tu peux plus. Hein.
Non, tu ne peux pas courir.
Tu peux plus marcher.
C'est pas... justement, comment on veut... Surtout, on essaie de me faire avaler à moi qu'un joueur a joué en ayant les adducteurs niqués. Non mais j'espère que c'est une mauvaise plaisanterie là. Ça marche absolument pas comme ça.
Il s'est trompé l'endroit, je crois que c'était de l'autre côté. C'est genre il avait un petit bleu sur la cuisse.
Non mais c'est ça, je veux te dire qu'il soit fatigué, je veux bien comprendre. Qu'il ait une petite gêne. Alors une gêne, c'est envisageable aussi.
Ouais, mais même avec une gêne, c'est très dur de jouer.
Bah oui, c'est dur, on est d'accord, dur. Mais quand c'est les adducteurs, tu ne peux pas jouer.
Non,
soyons clairs là-dessus, parce que c'est tout simplement, pour vous expliquer très bien, c'est ce qui relie les bourses. Tu la sens, la douleur. Hein. Voilà.
Merci, Marvelo. Mmh. Et sachant que l'information que j'avais lancée sur Toulalan et Sissoko blessé était lancée par Olas, donc c'est aussi Olas, donc il faut nuancer ce que j'ai dit.
Ah, c'est Olas, ouais, bon non.
Voilà. Ce n'est pas le staff médical de l'Olympique Lyonnais.
Non mais bon.
Voilà.
Faut pas. Je pense qu'ils ont surtout eu un jour sans et ils ont pris une belle volée et puis c'est tout. Ça arrive un jour sans. Mais ce qui est chiant, c'est qu'à Lyon, on n'admet pas qu'il y ait un jour sans. Ça arrive. C'est pas grave.
Bah, le problème, c'est que c'est déjà arrivé la semaine dernière.
Ça fait quand même 2% en une semaine.
Oui.
Non, mais il y a eu un formidable succès au milieu.
Ouais.
C'est vrai. Ouais. Ils n'ont pas fait un triplé comme l'OM il y a quelques semaines.
Oh, dis donc.
Voilà. Bon, c'est tout sur Lyon. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? Ben on va passer sur la victoire de Valenciennes face à Saint-Etienne. Et lundi dernier, je parlais beaucoup du très bon début de saison de Lorient, mais je pense qu'il faut aussi parler beaucoup de Valenciennes, qui doit réussir un de ses meilleurs débuts de saison en Ligue 1. Valenciennes qui est provisoirement 8e, à 4 points de Lyon et à 5 points de Bordeaux. Donc vraiment un très bon début de saison. Ce soir, ils obtiennent une victoire 2-0 à Geoffroy Guichard, début de l'Hôtel et du Courtiou. Un très bon résultat face à des Verts qui venaient d'enchaîner 2 victoires consécutives. Votre avis?
Moi, je suis surtout content que Odell ait marqué. Parce que Odell, ce qui lui manque, c'est justement de marquer des buts. Parce que à cause de ça, on le considère à tort comme une quiche en Ligue 1. C'est franchement un très bon joueur. Bon, voilà. Le problème, c'est qu'il se dépense tellement, il presse énormément, il déborde énormément. Il va trop en vitesse. Il devrait un peu apprendre à se canaliser pour être meilleur. Mais franchement, c'est un mec qui serait intéressant, peut-être pas pour les toutes premières équipes, mais plutôt pour les clubs européens, l'Europa League, les Toulouse, les Rennes, PSG, tout ça. Je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant parce que il fout souvent le bordel sur son aile.
Ah ouais. Odell, c'est quoi? C'est Lille, formé à Lille, non?
Ouais.
Ouais.
Mais voilà.
J'étais à Lorient entre temps et jouait à Valenciennes après.
Je trouve que c'est un joueur comme il y en a beaucoup en France en fait, qui sont sous-estimés parce que bon voilà quoi. Bon, il joue à Valenciennes donc tout le monde lui crache dessus, on le considère comme une petite merde. Mais bon, c'est dommage, il a 25-26 ans donc il a encore le temps de. Il a encore le temps d'exploser et puis bon, j'espère pour lui que ça va fonctionner parce que c'est un des rares joueurs de Ligue 1 que j'apprécie beaucoup.
Ouais, Odell qui, si je me trompe pas, l'an passé bat Lyon à lui tout seul. Hein.
Ah ouais.
Il te met un doublé incroyable en début de match. Il les bat vraiment à lui tout seul. Puis c'est vrai qu'il est assez rapide. Il a un assez gros volume de jeu. Il marque quelques buts. Vraiment un bon joueur, ouais.
Mais en meilleur. Pour être un peu méchant avec lui, c'est une sorte de Samuel Eto'o du très pauvre. Mais
voilà.
Franchement, il y a quand même des.
Est vraiment méchant avec lui.
Je dis que c'est très méchant parce que si quand même le très pauvre, c'est si tu veux du prolétaire même, hein, si tu veux. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a énormément de similitudes. C'est un mec qui sacrifie beaucoup, il presse énormément. Mais bon, on est d'accord qu'au niveau statistique, Eto'o marque autant sur une saison.
Bah, le problème d'Odell, pour sa carrière,
quoi. Hein.
Le problème d'Odell, c'est qu'il est inconstant, peut-être, parce que l'an dernier, moi, je me souviens qu'il a fait un excellent début de saison, marquant 3 buts en 3 matchs, un truc comme ça. Et puis qu'on l'a retrouvé qu'à la fin de la saison. Après, je ne sais pas s'il a été blessé entre-temps, mais je veux dire, on l'a vu au début et à la fin de la saison, quoi.
Non, mais c'est ça. En plus, on avait parlé lors d'une émission précédente, ben juste, je pense avec toi d'ailleurs, et on s'était tous accordés à dire que c'est quand même un joueur qui méritait peut-être un peu plus d'attention de la part des écuries un peu plus grosses en Ligue 1, parce que il a quand même un certain potentiel. Il faut peut-être pas oublier que c'est pas parce qu'il a 26 ans qu'il a pas de marge de progression ou qu'il est cramé ou quoi que ce soit. Franchement, je pense qu'il peut encore bien bien progresser.
Ah ouais, c'est sûr. Maintenant, c'est il est à Valenciennes pour l'instant. Il suffit qu'il fasse une bonne saison, une dizaine de buts, avec 2-3 bonnes prestations par-ci par-là. Et il se retrouve vite fait dans un club de au moins de disons première partie de tableau. Hein. Ça va très vite comme ça en Ligue 1, ça peut aller très vite.
Puis surtout faut surtout qu'il se blesse pas, parce que c'est un peu son problème depuis qu'il est pro. Moi je pense que s'il fait une saison complète, il dépasse les 10 buts. Après je sais pas exactement à combien de buts il est cette saison. Je pense qu'il est déjà à 2 ou 3 buts. Mais voilà, c'était juste. J'avais juste envie de saluer ce joueur-là.
Très bien. Et sinon, Saint-Etienne, ça va pas fort fort en ce moment. Hein. Ils ont joué Montpellier, mais la Valenciennes, 2 défaites. Après pourtant, ce qu'on avait parlé de regain les dernières semaines. Ça, c'est des hauts des bas pour l'instant de Saint-Etienne. Ils trouvent toujours pas vraiment leur équipe, celle qui pourrait être type. Aujourd'hui, il y a eu Miralas qui a joué, je crois, milieu droit. Donc, déjà, pour que Miralas joue, mais en plus au milieu, soit qu'il y ait des gros problèmes, soit qu'il y ait des gros problèmes.
Saint-Étienne qui redescend 16e.
Ouais. À 2 points du premier relégable, Le Mans. Alors, on va passer au dernier match de la soirée. L'enjeu était que Montpellier pouvait prendre seul la tête de la Ligue 1 s'il s'imposait à Rennes.
Le grand match.
Voilà, Rennes a battu 3-0 Alors, qu'il y en a.
Donc en fait, on lance un nouveau jeu pour les auditeurs. Essayez de deviner ce qu'il y a entre les trous. À gagner.
Ça me fait penser au jeu sur M6. Tu sais, où ils mettent le nom de l'artiste, ils enlèvent 2 lettres.
Tu vois, c'est genre, quelle équipe a gagné la Coupe du Monde, la France ou l'Angola? Donc là, c'est pareil, je pense qu'avec Dan, il nous avait dit qu'il y avait des t-shirts ou un plateau de charcuterie à gagner, je sais pas. Donc voilà, vous envoyez vos posts pour un numéro très 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 surtaxé. Et puis, on évaluera les candidatures pour voir qui était le plus proche de la réalité. Et voilà.
Aurélien, c'est quoi la viande présente sur le plateau?
C'est des viandes à base d'animaux pas interdits dans plusieurs religions monothéistes. Voilà.
Bon, revenons.
Oui, donc ce grand match.
Voilà, Rennes-Montpellier, 3-0 pour Rennes. Rennes qui se relance après avoir subi quelques échecs consécutifs.
C'est pas à rejouer. Bah, parlons de Rennes et après on parlera de Rennes réserve.
Jus d'ailleurs va nous toucher un petit mot sur ce match.
Oui, exactement. Ah. J'ai un peu de retard. Oui, Rennes-Montpellier. Alors j'ai vu un petit peu de ce match et puis je me suis un peu renseigné depuis. Donc gros match de Rennes qui a eu un peu de mal à se lancer au début. Et qui est vite monté en puissance et grâce à un joli but de Sylvain Marvaux, qui est vraiment un super joueur, hein. gros match de Sylvain Marvaux, et sur une passe de Jérôme Leroy qui encore éclaboussé le match. C'est vraiment un super joueur technique, Jérôme Leroy, qui d'ailleurs il est sorti sur civière quasiment à l'heure de jeu après un choc avec l'arrière droit de Montpellier, qui a un nom assez imprononçable puisqu'il s'appelle Mapuyanga Mbiwa. Voilà.
Et en rapide, ça fait Mapuyanga Mbiwa. Donc c'est tout voilà. À fait prononçable. Je le confirme.
C'est quoi ton prénom?
C'est Mapu.
Mapu? Ou oui. Mbiwa?
Ou Yanga?
Ou mieux encore. Il s'appelle peut-être juste.
et qui a mis un bon coup à Jérôme Leroy, qui apparemment a perdu légèrement connaissance, mais d'après les dernières nouvelles, ça irait. Et d'ailleurs, Montpellier a joué comme d'habitude ultra physique en défense avec Spike et Zodic, qui ont eu droit à leur carton jaune chacun. Et donc ça a été très dur sur la technique de Leroy. De Gian a très bien joué aussi et marque un but splendide, but du 3-0. Et puis on est obligé de parler du quatrième en attaque avec Gian, Leroy et Marvo. C'était ce cher Moussa Sow qui lui aussi a marqué un but. Alors, c'est pas un but ultra technique, hein, vous inquiétez pas, c'est un espèce de but tacle sur un centre de Jérôme Leroy qui fait.
Oh, bah, tu veux, je pense que je parle au nom de tous en disant qu'on s'était pas posé la question de savoir si c'était un but technique ou pas. Ah, ça sentait pas le double contact dans la surface avec ballon de l'extérieur, hein.
Non, je confirme. C'était.
Ah, c'était une grosse patate, quoi.
Ah, bah, oui, bah, ouais, c'est au fond des filets, comme dirait l'autre. Hein. Donc c'est solide pour Rennes, c'est un gros coup d'arrêt peut-être pour Montpellier qui avait commencé fort et qui a vite perdu le fil face à la vitesse de Rennes qui a vraiment su, alors on parle toujours de la défense ultra physique, ultra solide de Montpellier, et là vraiment ils ont été dépassés totalement par la vitesse des Rennais, par la qualité technique. Au milieu, ça a été très bon, comme toujours, avec les deux petits jeunes, Mvilla et Lemoine, du côté de Rennes. Et en attaque, ça a beaucoup gâché. C'était pas très très bon. Donc, voilà.
C'est super, Rennes. Hein.
C'est passionnant.
Ouais. Non, mais ça va être vraiment l'équipe chiante à jouer pour tout le monde en Ligue 1. Ah, c'est...
Bien sûr.
Voilà, la Rennes de confirmer après 3 matchs sans victoire.
De toute façon, Rennes, ça a toujours, depuis déjà plusieurs années, c'est pas forcément l'équipe qui est très facile à jouer, mais là encore plus avec les 2-3 recrues qu'ils ont pu faire. Gian qui commence vraiment à s'affirmer en tant que très bon attaquant de Rennes. Et ça peut faire comme d'habitude une place européenne, même s'ils vont échouer comme d'habitude à la dernière journée pour la Ligue des Champions, ça va pas être forcément grave, mais disons que s'ils commencent à jouer la Coupe d'Europe, ça pourrait devenir très intéressant et commencer enfin à développer un truc à la route de l'Orient.
Oui, c'est poétique ce que tu dis.
Je sais. Et d'ailleurs, Julian Esteban, qui est prêté par Rennes au Servette FC, a rejoué ce soir.
D'accord. Merci deux fois.
C'est vous le
garçon. Très bien.
Ouais. Ouais, juste un mot pour dire que, donc pour finir, ce que j'étais en train de dire, c'est que Montpellier, je pense qu'il faudra faire plus que toujours mettre une grosse pression physique sur l'adversaire, défendre très fort. Et compter sur la technique de Montagno devant, notamment, pour tenir, parce que sinon, les équipes vont trouver, les adversaires vont trouver le moyen de réussir à contourner ça, et ils vont vite se retrouver dépassés au niveau du jeu. Et quant à Rennes, je pense que c'est vraiment du solide. Antonetti gère ça parfaitement, et pour moi, c'est un bon équilibre entre les jeunes comme Mvilla, Lemoine et des jeunes qui, je pense, ont beaucoup d'avenir comme Sylvain Marvaux et des gens beaucoup plus solides, des Ronson, des Leroy qui sont toujours là pour garder ça bien solide. Donc je pense que Rennes, c'est vraiment une équipe qui, toute la saison, va être très régulière, va être capable de livrer des bonnes performances. Et puis un dernier petit mot, c'était donc il y avait Sylvain Marvaux. Du côté de Rennes, il y avait son petit frère Joris qui jouait en face à Montpellier et qui lui est plus jeune et a pas mal souffert. Donc voilà, c'est un peu tout sur ce match.
J'espère que ça calmera aussi un petit peu les Montpellierains parce que.
Oui, je confirme.
Ouais.
Doucement les gars, hein. Vous avez pas gagné la Champions League. Hein. Et puis franchement. Et puis c'est surtout le plus important parce que c'est un sujet quand même qui est grave. C'est pour que Loulou Nicolas ne meure pas. Parce que s'il se met à sauter à chaque fois qu'il marque, il va mourir. Hein.
Oui, son cœur va lâcher.
Il va lâcher, c'est pas des...
Bon, il a dit qu'il prenait plus de Viagra, c'est toujours intéressant à savoir. Ouais.
Ah, ça, bah, mais... Nicolas, il en donne toujours des impôts. Il donne toujours des informations très intéressantes. Hein. Ouais, c'est ma femme qui lave mon t-shirt. Ah, ouais. Bravo, champion.
Est-ce qu'il a toujours besoin d'enculer les arbitres?
Donc voilà, quoi. Si vous avez vous aussi des messages dans tout le monde se branle, allez-y, hein, comme le Nicolas style.
Bah, je crois qu'on a fait le tour des résultats de Ligue 1 de soir.
La veste de Paolo Duarte. On peut en reparler.
Non, c'est bon. On va pouvoir reparler des. On va parler un peu des matchs demain. Alors, demain, il y a Auxerre-Lille à 17h et Lens-Toulouse à 17h. Et surtout, je vous rappelle, demain, ne loupez pas cette émission historique. À 20h15 sur Radio Génération Soccer, l'avant-match Marseille-PSG. Toute la soirée consacrée à Marseille-PSG. Alors, comme demain.
Avec Arnaud Manet.
Voilà. Comme demain, on va beaucoup parler de Marseille-PSG dans une grande émission sur Génération Soccer. Juste si vous avez un mot à dire sur Auxerre, Lille et Lens-Toulouse, sinon on va pouvoir passer au championnat étranger. Rien à dire? Voilà. Alors, on va pouvoir passer au championnat étranger. Je crois que Habib, s'il te plaît, évite de me faire un blanc. Vous voulez dire un mot sur la Liga?
Non.
Je t'en prie, c'est à toi.
Je sais pas pourquoi tu inventes des choses, mais... Non, j'ai rien à dire. Donc, évidemment, 8e journée ce soir avec 3 matchs. Je vais commencer juste par. Pour commencer, hein, je vais fracasser Trio, hein, qui nous a fait un caca. Enfin, Trio et Blanc qui nous ont fait un caca nerveux parce qu'ils ont joué la Ligue des Champions mercredi et puis c'est toujours les décideurs qui décident de les faire jouer le samedi. Le Real l'a fait, ils ont rien dit, voilà. Mais bon, on reviendra.
Excuse-moi, ils se plaignaient parce que la Ligue a refusé de décaler le match alors que tout le monde est d'accord. Canal était d'accord, Le Mans était d'accord, et ils ont refusé sans raison. Mais
ouais, mais en même temps,
principe, voilà.
En même temps, pour le principe, en même temps, est-ce que parce que la Ligue, en fait, elle peut tout simplement pas le faire pour des raisons de pas de statut, mais en gros ils peuvent pas, ils ont un maximum de 3 ou 2 matchs à jouer le dimanche à 17h, et donc justement s'ils faisaient ça, ils devaient pénaliser un club de l'Europa League, ce qui est une aberration. Pourquoi? Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi toujours en France, quand on joue tous les 3 jours, on chiale. Ça faudra m'expliquer. Ils ont joué mercredi, ils jouent samedi, c'est bon, ça arrive. Il y a des dizaines de milliers de clubs anglais, d'allemands, de hollandais, d'Ouzbékistan même, qui ont joué de la coupe. Et puis ensuite, ils ont joué 3 jours après le championnat, ils sont pas pleins. Pourquoi c'est toujours...
Même en junior, je joue comme ça, des fois.
Comme je te dis,
pourquoi c'est pas toujours... Plein. Non mais franchement, pourquoi c'est toujours les Français qui se plaignent?
Comme je te
toujours.
Dis, ils sont pas
pleins pas, ils
de jouer
pas.
3 jours après, ils sont pleins du refus de la Ligue de refuser alors que tout le monde était d'accord pour une raison
et donc, par extension,
que seuls connaissent.
D'accord, et donc par extension de jouer le samedi. C'est bien ce que je disais. Non, mais au bout d'un moment, si tu veux, avec Bordeaux, il y a l'envers de la surmédiatisation pour les deux autres gros clubs et Lyon, c'est que à chaque fois quand c'est Bordeaux, c'est oh là là, la Ligue elle est méchante, elle est caca. Si ça arrive, il y avait eu la même affaire l'an passé avec Lyon, il me semble, où il y avait le club adverse qui était d'accord de changer la date, tout ça. Ça avait fait la même histoire et je me rappelle pas avoir entendu Trio ou dire oui, c'est pas normal, tout ça, et puis voilà.
La Ligue avait accepté pour Lyon l'an passé.
T'es sûr qu'ils avaient accepté?
Ah ouais, ils avaient accepté, hein.
Tu voudrais donc dire que je me suis trompé et du coup j'aurais accepté le défi de CFCL sur le shootcast, enfin la boxe là?
J'en ai bien peur.
Oh là là, on dirait que j'ai une intelligence supérieure. Donc voilà, hein, CFCL. Voilà, tu l'as eu ton petit bonus gratuit.
On l'attendait, elle est venue.
Elle est venue. Alors la prochaine fois, vous voulez vous taper un et tonton Marvolo. Non, mais sérieusement,
Évidemment que c'est une belle connerie de la Ligue, encore une fois. Et puis, demain, il y a deux matchs seulement, mercredi, dimanche à 17h. Dans les statuts de la Ligue, c'est quatre matchs maximum, dimanche à 17h. Hein. Donc, bien joué la Ligue. C'est deux pour un. Non, non, mais plus sérieusement, on revient à la Ligue. Après ce petit défi remporté avec succès, puis je le fais rapidement parce que Dan va me virer. Donc, je vais enchaîner sur les trois matchs d'aujourd'hui. Donc, Atlético. Oui, parce que Dan, il adore hein, que j'utilise la radio pour me faire mes propres délires. Donc, on va enchaîner avec Atlético Mallorca, premier match. Donc, l'Atlético, après s'être fait corriger par Chelsea, et a fait match nul sur sa pelouse contre Mallorca. Alors, ils ont fait un double triple fois, au bout de voir. Ils ont réussi à faire match nul en encaissant à la 90e minute, premier exploit, en ratant. En ayant deux pénaltys, deuxième exploit, et en jouant à 9 contre 11 toute la deuxième mi-temps. Tchiklikling, tchiklikling, bravo les gars, super. Voilà l'Atlético qu'on n'aime pas. Et évidemment, hein, c'est toujours ce sens du timing de Marseille. Elle chope l'Atlético dans sa meilleure saison en 10 ans, et puis maintenant, qu'ils sont pourris, bah, ils ne sont pas dans leur groupe, donc voilà. Il y avait, bon, évidemment, il y a un nouveau coach qui s'appelle Santillana qui est arrivé suite à. Au licenciement de l'ultra mauvais Abel Resino. De toute façon, Abel Resino, c'était une sorte de, on va dire, cheval de Troie, hein, parce que c'est une ancienne gloire du club. C'était celui qui était détenteur du record d'invincibilité pour un gardien avant que Van der Sar ne le batte l'an passé. Donc, autant dire que c'était une star de chez Star à Madrid. Et voilà, quoi, c'est une sorte d'écran de fumée un petit peu pour soulager les supporters après le licenciement de Javier Aguirre. C'est une équipe qui est très très méconnaissable par rapport à ce qu'on a pu voir l'an passé. Un Forlan qui est, et ça me fait mal de le dire parce que l'un de mes, c'est mon attaquant préféré, il est franchement mauvais depuis le début de saison. Il rate un penalty et bon, il a commencé par faire un l'entraîneur a commencé par faire un choix très très bizarre. Il prive, il enlève en fait le titulaire. Sergio Asenjo, plus gros, et là pour le coup c'est le plus gros espoir espagnol, hein, gardien de l'équipe sous 21, donc les moins de 21 ans, gardien extraordinaire, il sera dans les trois meilleurs gardiens plus tard, ça à n'en pas douter, et donc il décide de mettre, non seulement il avait donc un gardien de 21 ans, le deuxième gardien à 21 ans aussi, et puis donc il décide de mettre le troisième qui a 18 ans, autant dire que ben, il aime les challenges, hein. Donc voilà, De Gea qui avait fait un match énorme contre Saragossa, aujourd'hui ça a été moins rose pour lui parce qu'il a fait deux erreurs énormissimes. Et bon, bah, pour l'Atlético, ça continue toujours aussi mauvais. 7 points en 8 matchs, ils sont 14e. Ça va de plus en plus mal. Et puis, là, ils ont toujours une défense, mais d'un niveau, je veux dire. On se plaint des charnières centrales en Ligue 1, il faut voir la défense Pablo Ibáñez et Dominguez. C'est. Franchement, je vous invite à les regarder au moins une fois. Samassa balle au pied, il a sa chance. Hein.
Ça promet. Bah,
non, mais c'est franchement très mauvais. Bon, Dominguez, il est encore jeune, il a que 20 ans, mais bon, c'est dommage parce que sur le banc de touche, il y avait Juanito par exemple, un Juanito qui est complètement à l'agonie, hein, ou à l'arrêt depuis qu'il est arrivé, lui qui était un des meilleurs défenseurs en Espagne quand il était au Betis, spécial dédicace. À moi-même, hein. Enfin, oui, il a 33 ans déjà, mais ouais. Bon, le. Faut dire que ses concurrents, c'est Perea, le défenseur colombien mononeuroné, tu vois. Donc, c'est pas non plus une concurrence, comment la qualifier gentiment, insurmontable. J'ai fait un gros effort, là.
Très élégant, merci.
Ouais, très très élégant. Parce qu'il est. Ah, il est minuit, c'est bon. Je peux commencer, mais ça, je le garde pour Raoul. Et donc voilà, quoi, c'est franchement Simao qui est pas aussi bon, le fameux Quatuor qui était pour moi un des meilleurs Quatuors l'an passé en Europe, le Maxi Rodriguez, Simao, Forlán, Agüero, cette année il est complètement décomposé, ça marche pas, ça marque pas, et puis là je pense qu'ils ont fait le top parce que faire match nul à 9 contre 11 c'est quand même grave, surtout à domicile. Bon, après Mallorca c'est une des équipes, c'est bon, même pas une des équipes, c'est carrément l'équipe révélation de la saison, hein. Ils sont cinquième en Liga, donc c'est
c'est quand même une bonne, un très très bon début de saison de leur part. Mais bon, quoi, c'est franchement une grosse grosse déception pour l'Atlético Madrid, quoi. Et donc voilà, j'enchaîne. Contrairement aux autres fois, je ne vais pas faire ça par ordre chronologique. Je vais passer donc au dernier match parce que je préfère garder le Gijón Madrid pour la fin. Donc Sevilla Espagnol, très très beau match avec une encore une fois un Sevilla qui est beau à voir jouer, match 0-0. Mais bon, encore une fois, il y a Kameni qui était aujourd'hui le gardien qui fait partie de cette génération de gardiens en courant alternatif avec le Brésilien Elton, le Portugais Ricardo, Paul Robinson, donc les gardiens capables d'être extrêmement bons et très très mauvais. Aujourd'hui, il a offert son meilleur visage et franchement, c'était. Je regardais la deuxième mi-temps pendant qu'on faisait l'émission et puis franchement, c'était assez hallucinant. Il a vraiment tout enlevé. Bon, c'est. Franchement, je me demande encore comment il a été aussi bon, mais.
Franchement, c'est fini
sur 0-0. Ouais, non, c'est fini 0-0. Donc bon, l'Espagnol qui continue, ils font une assez bonne saison. Ils font une assez bonne saison pour le moment. Ils sont toujours 8e. Sevilla qui est toujours la troisième force du pays, même si le Deport peut passer devant s'il gagne demain. Mais bon, je pense que Sevilla était quand même assez fatigué parce que même si eux aussi ont joué la Ligue des Champions, ça se sent un petit peu sur les effectifs, mais bon, hein, ils n'ont pas chialé là-dessus. Moi, j'en reviens quand même un petit peu sur Laurent Blanc. Mais bon, le truc, c'est qu'ils étaient surtout. Ils avaient quand même assez pas mal de blessures. Et c'est... D'ailleurs, ils avaient tellement de blessures en attaque qu'on a pu revoir sur la feuille de match Koné et Chevanton.
Ah ouais, quand même.
D'ailleurs, à propos de Koné. Dan va lancer un jeu concours. Il offre un t-shirt au premier joueur, au premier auditeur. Moi, j'offre même un iPhone, hein, si vous voulez. Au premier joueur capable de me donner un bon joueur qui a comme nom de famille Koné. pour prendre Billy Chinkwe, qu'on salue tous, on en a vu des milliards de Koné. On n'en a jamais vu un de bon. Alors, j'attends qu'on me donne un bon Koné.
Celui-là, il va au-delà des autres par sa coupe de cheveux.
Ah oui, non, il a choisi le look Dennis Rodman. Donc, c'est un black avec. En fait, il ressemble à une sorte de balle de tennis noire.
Exactement.
Voilà. Il a la petite surface peluche jaune sur le haut du crâne. Et donc, voilà. Autant dire que c'est pas ce genre de joueur qui font de marquer. Mais bon.
Il est plutôt lift ou slice.
Franchement, c'est Baduf. Voilà. Et puis on va enchaîner sur le dernier match.
Ah, donc, voilà.
Donnez-moi 10 secondes de concentration. Voilà. C'est parti. Le round show va commencer. Ouais. Déjà, avant d'attaquer sur Raoul, je vais juste vous donner la composition du Real Madrid. Côté gauche, Marcelo. Ailier gauche, Drenthe.
Ils ont recruté qui en été? Ils ont recruté qui à l'été?
C'est la question que finalement je commence à me poser par rapport à l'effectif de l'an passé. Le gros problème de l'effectif de l'an passé, c'est qu'il n'y avait pas de joueurs de côté. Il n'y avait que Robben. Donc maintenant, je me repose encore une fois la question, qui au Real Madrid actuellement est capable de jouer sur un côté?
Bah, ils ont recruté qui à ce poste-là?
Ils ont recruté Ronaldo, mais finalement, Ronaldo ne joue pas sur un côté.
Kaka, à la limite.
Non.
Kaka, mais bon, il est déjà mauvais dans l'axe.
Non, mais c'est sûr.
On l'a jamais fait. Mais on va arrêter le langage de boiter les foot. Il est mauvais au Real. Mauvais. Il n'y a pas peut-être un petit peu moyen.
Je suis même pas sûr qu'il y ait aucun intérêt à mettre Guti à sa place.
Guti,
ouais. Le cousin.
Umtiti côté gauche. C'est aussi judicieux que Valbuena dans les buts.
Non, non, à la place de Kaka dans l'axe.
Pas sûr. Pas sûr, parce que le problème...
C'est Valbuena latéral.
Non, là c'est Valbuena à la récupération. Je te dis, peut-être que si tu l'associes avec un joueur physique, il peut être un assez bon relayeur. La question c'est plutôt que si jamais tu fais jouer Guti, tu te retrouves avec un milieu de terrain. Diarra, Xabi Alonso, Guti.
Bah, c'est pareil qu'avec Kaka.
Attends, je te donne juste la fin de la compo, si tu veux. Donc tu as Casillas, Marcelo, Garay, Pepe, Ramos, Xabi Alonso, Diarra, Drenthe, Kaka, Granero et Raúl dans l'axe. Raúl, je garde pour la fin parce que là, vraiment, vraiment, ça va être mignon ce que je vais faire sur Raúl.
Voilà. Ouais. Mais qui fait pas vraiment peur, même sur le papier.
Alors, pour être plus honnête, je te donne les absents. Cristiano Ronaldo, Higuain, Benzema, Van Nistelrooy. Voilà, donc franchement, Metzelder n'était pas là, Albiol n'était pas là, donc il y avait quand même pas mal d'absents. Arbeloa qui était sur le banc. Donc le problème, c'est finalement qu'on se retrouve avec, bah justement, le problème, c'est qu'on a les mêmes problèmes que l'an passé. Au final, il n'y a pas de joueur sur les côtés. Higuain avait fait du dépannage l'an passé côté droit. Drenthe, j'ose même pas parler de dépannage parce qu'il dépanne rien du tout. C'est déjà, je pense que ça a été pendant deux saisons un honneur qu'il porte le maillot du Real. Maintenant, ça devient une blague. Mais bon, en même temps, je pense que c'est surtout parce qu'il y a personne qui veut le récupérer. Donc, ceci explique cela parce que Ramon Calderon, le très grand visionnaire qui a été à la tête du Real Madrid, comme bonne idée, a tout simplement bétonné les contrats de tous les joueurs du Real Madrid. Donc Drenthe doit toucher 3,5 millions nets par an.
Ouais.
Ça fait peur. Hein.
Ça se tient.
Voilà.
Et donc Raúl.
Voilà, c'est ça Raúl. C'est rien. Ça sert à rien. Ça fait chier. C'est pathétique. Au bout d'un moment, il faut franchement arrêter là. Il faut franchement arrêter avec Raúl. Déjà, tu pars handicapé parce que tu as personne pour jouer sur les côtés. Donc, étirer les défenses. Et donc, du coup, tu vas passer que dans l'axe. Et si tu passes que dans l'axe, que peut faire le petit Raúl contre les méchants défenseurs de l'Espagne?
Non, mais ça, ça relève de l'incompétence tactique.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est de l'incompétence tactique? Pas vraiment, il y avait tout simplement personne.
Aussi, ouais.
Franchement, il y avait personne aujourd'hui. Il y avait personne. L'effectif du Real Madrid, au final, c'est toujours la même chose. Ils sont bons dans l'axe, en défense c'est assez bon, gardien on n'en parle pas. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de solutions de rechange sur les côtés. Et du coup, bah, c'est les mêmes carences que l'an passé. C'est un jeu ultra stéréotypé, mais franchement ultra stéréotypé. Bon, après, il faut dire que Juan Pablo, le gardien de Gijón, a fait un assez bon match. Mais le problème, c'est de se dire que l'an passé, cette équipe-là, bah, le Real évidemment, même en jouant assez mal, leur avait collé une rouste monumentale.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ça avait tourné.
C'est quoi, c'est genre du 6-0, non? 7-0
7-1. Non, 7-1. Il s'était mangé 7-1 à l'aller avec triplé de Van der Vaart. D'ailleurs, un Van der Vaart qui est rentré. Et lui aussi, ça commence à tourner à la blague. Hein. Donc, au-delà du problème tactique, le gros problème, c'est que c'est surtout... comment expliquer ça? C'est toujours ce manque de joueurs sur l'aile, donc il n'y a pas de percussion. Ouais, non.
Sinon, on peut appeler Khaled.
Voilà, c'est ça, ouais. Trop de PESQ vocabulaire. À consommer avec modération, d'ailleurs, PES10. Voilà, c'est ça le problème. Je vous donne le bon touche hein, pour finir. Donc, il y avait Boudek, Garay, Alonso, Arbeloa. Non, qu'est-ce que je raconte?
je me suis un petit peu emballé. Donc en plus de, il y avait donc Acuña, Arbeloa, Gago, Dudek qui sont pas entrés. Autant vous dire que voilà quoi, c'était. Et puis Guti qui est rentré, Albiol et Van der Vaart. Ouais. Donc voilà, le problème du Real, c'est que c'était franchement indigent. J'ai regardé ça à moitié comateux, à moitié envie de vomir. Et puis voilà, surtout que Gijón, malgré son classement qui est très très flatteur, parce qu'ils sont 7e, c'est franchement pas une bonne équipe. Parce que j'ai lu un petit peu partout sur les topis, que ce soit Topic Real ou sur d'autres forums, Pro Real, que Gijón, c'est une bonne équipe en ce moment, que Gijón, elle est très forte. Au bout d'un moment, quoi, si tu n'arrives pas à battre Gijón, qu'est-ce que tu veux faire en Ligue des Champions? Parce que l'objectif du Real, c'est quand même de gagner la Ligue des Champions cette année, vu que la finale se joue au Santiago Bernabéu. Et voilà, quoi. Dans ce cas-là, tu peux absolument pas gagner ou faire quoi que ce soit, quoi.
Non, c'est sûr. De toute façon, ça s'est déjà vu, c'était quand mercredi contre le Milan. C'est... Les carences, qui est quand même, qu'elles soient techniques, c'est de côté, mais les carences tout court du Real, qui ça a commencé de Casillas, hein, c'est fou. C'est pour une équipe qui a dépensé 250 millions sur cet été, tu sens que l'argent fait pas tout, hein, parce que, alors peut-être que c'est que le qu'un moment qui est de méforme pour le Real, mais il y a vraiment, ils ont vraiment de la peine en ce moment. On a l'impression que depuis que Ronaldo est blessé, ça va beaucoup moins bien. Alors je sais pas si c'est un métronome ou quoi que ce soit pour concernant le Real, mais ça coïncide avec cette période, justement.
Bah moi je trouve, enfin, tu parles de 250 millions, d'accord, mais moi je trouve quand même qu'il y a une erreur de casting quelque part. Tu regardes le Real de l'an passé, les seuls moments où ils arrivent un petit peu à surnager, c'est quand Robben joue.
Parce que faut arrêter avec ce petit cliché qui veut que le Real ne jouait que quand Robben. C'est pas vrai. Robben était un des meilleurs joueurs du Real l'an passé, mais le meilleur joueur, celui qui était le plus percutant, c'est Higuain. Ça reste Higuain, quoi qu'on en dise. Donc, mais pas que lui.
Quand il n'y avait pas que lui qui était le Real Madrid bien joué, ou entre guillemets bien joué, c'est quand Robben jouait bien. Higuain, c'est surtout qu'il était présent dans la surface, il marquait des buts, et puis ouais, il était assez remuant. Robben, c'est vraiment celui qui faisait la différence. Mais bon, bref, admettons. Quand tu regardes leur recrutement, en prenant en compte le fait qu'ils jartent Robben, pour une raison d'ailleurs que j'ai toujours pas compris, tu te dis que c'est pas si surprenant que ça que quand t'enlèves Ronaldo, ça marche pas. Il n'y a rien de surprenant à ça. Et ça, malgré les 250 millions, quoi. On connaissait leurs problèmes de défense qui devient un problème légendaire, quasi.
Bon, enfin, la défense aujourd'hui, c'est pas un problème. À Madrid, la défense, c'est pas un problème.
Ouais, t'as des problèmes tactiques en défense sur certaines actions qui sont assez. Mais c'est vrai que c'est mieux qu'avant.
Bah, sur coup de pied arrêté, effectivement. C'est pas Manchester, on est d'accord. Mais si tu veux critiquer la défense, c'est peut-être pas ce qui est le plus judicieux. Et c'est aussi paradoxal parce qu'on est habitué à critiquer la défense et encenser l'attaque. Moi, franchement, je suis pas si déçu par la défense du Real.
C'est vrai que c'est mieux qu'avant, c'est vrai. Mais au-delà de ça, comme tu dis, l'organisation.
Je donne juste 8 matchs, 6 buts encaissés.
Ouais, c'est ça, donc c'est pas trop mal. Mais c'est surtout aussi grâce au fait qu'ils jouent très haut, qu'ils gardent beaucoup le ballon haut. Mais leur animation offensive est absolument médiocre, avec ou sans Ronaldo.
D'ailleurs, je vais juste enchaîner sur deux réactions rapidement. Donc la première réaction de Ali qui dit c'est pas le même Gijón qui s'est pris 7-1 et 4-0 aussi. Certes, mais on te demande pas de leur coller encore une fois 7-1 et 4-0, mais juste de gagner le match. Le problème, c'est que le Real, à aucun moment n'a semblé pouvoir gagner.
Et puis la deuxième, c'était de Matzett qui dit Pellegrini n'était pas censé jouer sans véritable ailier, comme il le faisait à Villarreal. À un moment donné, il faut aussi critiquer l'entraîneur, Marc. Le problème, c'est que comment tu veux critiquer l'entraîneur si dès le début de saison, encore une fois, putain, je vais me répéter en plus, vu que les deux écoutent souvent l'émission, ils m'ont entendu répéter 30 fois cette phrase-là, mais quand, dès la fin du mercato, tu vois déjà qu'il y a des petits problèmes au niveau de l'effectif en attaque, parce que tu vois qu'il n'y a pas de joueurs pour jouer dans sur les côtés, bah, tu vois qu'il y a un problème. Et puis aujourd'hui, c'était en plus un cas exceptionnel. Donc, critiquer l'entraîneur, non. Je vois pas spécialement en quoi c'est une faute de l'entraîneur, même s'il y avait peut-être d'autres choix à faire concernant Drenthe par exemple. Mais là, c'est surtout une certaine. Ce serait quand même exagéré de dire un mauvais fonctionnement de la cellule de recrutement, parce qu'ils ont quand même fait un bon recrutement. Mais il aurait peut-être fallu prendre un peu plus de joueurs d'appoint et peut-être un peu moins de stars, parce que. C'est, je sais pas, moi je trouve que tu prends, tu prends un Crossat d'Almeria par exemple, ça peut te rendre des services. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bons petits joueurs en Espagne qui sont capables de te faire de bons matchs pour ce genre de match là. Et puis surtout là, quand on voit les joueurs qui sont rentrés, les solutions, donc en gros, le Real avait des problèmes sur le jeu sur les côtés et donc il faut rentrer Van der Vaart et Guti. Voilà. Je veux dire que là, c'est pas juste un problème de Pellegrini. Franchement, je pense que là, d'ailleurs, c'est même minime. Et puis, comme tu me dis qu'il jouait sans véritable ailier comme il le faisait à Villarreal, sans véritable ailier, c'est toi qui le dis. Il a quand même joué avec Cani Pires. Donc, voir Mathias Fernandez, même si, bon, là pour le coup, c'est pas un vrai ailier, mais bon, il est quand même limite meilleur. Sur un côté qu'en deuxième attaquant. Donc c'est pas, je veux bien dire que c'est qu'il a fait quelques erreurs aujourd'hui, bah évidemment, hein, quand l'équipe perd, c'est aussi la faute de l'entraîneur, mais c'est pas seulement sa faute. Et puis surtout Matzett, c'est un petit peu hypocrite de dire ça, parce que tu sais très bien que au final, est-ce que Pellegrini avait vraiment l'effectif qu'il voulait? Est-ce qu'il a vraiment l'effectif qu'il veut? Moi, je pense pas que Pellegrini ait décidé de se débarrasser de Schneider, qui marque encore ce soir. Je pense pas qu'il eût été d'accord pour se débarrasser de Robben, qui marque encore ce soir. Donc voilà, moi, je te donne quelques pistes. Après, évidemment, tu peux penser différemment, mais bon, je trouve que c'est quand même trop facile de taper. C'est quand même trop facile de taper justement sur Pellegrini ce soir, parce que c'était tout simplement l'effectif du Real, encore une fois, qui a pas beaucoup de solutions sur les côtés. Donc je vais devoir aller m'ouvrir la truc parce que j'ai quand même mal à la gorge. Mais donc voilà. Non, plus sérieusement.
Ouais, mais...
Ali, qui répond là, encore une fois, on a battu le Betis 6-1 sans Robben. Le Betis 6-1, ouais, sans Juanito, hein. Et quand on connaît la qualité de la défense bétique, alors imagine-toi sans Juanito, ce que ça donne 6-1. Et puis le problème tactique dont tu parles, Matzett. Là, on est en train de faire un petit dial avec les animateurs. Tu me dis que Cani Pires, c'est vraiment axial tout ça, même Castellana n'en est pas un. Ne confonds pas, s'il te plaît, un ailier de débordement, un faux ailier. Parce que au final, ça reste quand même des ailiers. C'est juste une autre catégorie. C'est pas parce que tu repiques plus dans l'axe que ne peut le faire. Enfin, ce que faisait plutôt Giggs il y a quelques années, où il centrait beaucoup plus que maintenant, ou un Beckham, ça reste quand même des ailiers. Ne nous voilons pas la face. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour la partie espagnole. Donc à moins que vous ayez des questions, des suggestions. Mais j'aimerais bien quand même qu'on arrête, parce que je crois que je vais pleurer tellement que je m'arrête.
Bah, merci beaucoup Habib pour ce long résumé très intéressant sur ce qui s'est passé aujourd'hui en Ligue 1.
Bien qu'on reste sur notre fin concernant Raoul.
Attends, non. On revient 5 minutes après. Donc, à part si vous avez d'autres questions, on va entamer le chapitre Raoul. J'ai complètement vu. Raoul. Et puis, bien sûr,
je vais faire une double, hein. Je vais critiquer les, je crois, les deux personnes que j'ai le plus critiquées depuis le début de l'aventure de Génération Soccer, c'est Raoul et Daniel Riolo. Bon, déjà, on va commencer avec l'autre attardé des RMC, comme ça c'est fait. Faudra qu'il arrête avec son délire de Raoul Anki les buts. C'est quand même grave, grave, mais gravissime à ce niveau de d'expliquer tout le temps que Raoul c'est un super joueur, c'est une super star. C'était un super joueur. Maintenant c'est finalement un bon petit joueur de Liga, mais sans plus. Il marque 25 buts toutes compétitions confondues. C'est quand même pas mal pour un joueur de son âge. Mais à chaque fois que le niveau s'élève, qu'est-ce qu'il fout Raoul? Qu'est-ce qu'il fout Raoul? Qu'est-ce qu'il a foutu aujourd'hui, maintenant qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir un petit ballon potable? Raoul n'est pas capable de se créer la moindre. Déjà, ça en fait un attaquant limité, au possible. Donc, ça, c'est la première question. Ensuite, il y a aussi le souci avec Raoul en Ligue des Champions. Parce que Raoul en Ligue des Champions est toujours titulaire. Et le but, enfin le but, comment on va appeler ça, on va dire la sodomie amicale qu'il a mis à Dida.
L'offrande de Dida.
Sodomie amicale, je préfère. Il est mignon.
Oui.
Oui. Ou fist fucking amical, c'est comme tu veux, en toute convivialité. Donc fist fucking qui vient de l'anglais, vous fusionnez les deux mots, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça, c'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il marque un but contre le Milan, donc maintenant tout le monde se dit « Oh, Raoul a marqué un but contre le Milan, il n'est pas terminé !» Bah si, il est terminé. Bah si, en Ligue des Champions, on ne peut plus rien donner. Et puis Pellegrini, là pour le coup, Matzet, on va critiquer l'entraîneur, il n'a pas les cojones de le mettre dehors, quoi.
Ça, c'est vrai.
Il n'a pas les cojones de le mettre dehors. Ça fait 10 ans qu'on le dit, enfin 10 ans non, mais 5 ans limite. Et bon, il y a encore un entraîneur qui n'a pas eu les couilles de le mettre. Et le problème, c'est. Là, je vais critiquer quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ça me fait un peu chier. Quand j'entends
c'est moi.
Fred Hermel dire que Higuain joue beaucoup trop et que Benzema pas assez. Franchement, c'est hallucinant. Jusqu'à preuve du contraire, Benzema, c'est un mec qui a été bon, très bon, une saison en Ligue 1, qui a été bon ensuite. Donc en gros, ça reste pas grand-chose. Higuain, ça a été un mec qui a été décisif lors des deux dernières saisons, avant qu'il ne soit titulaire pour l'attribution des deux Ligas du Real. Et puis ensuite, une fois qu'il a été titulaire, il a été le meilleur joueur du Real. Donc,
il les a sauvés un paquet de fois.
Bah ouais, non, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est bon, ça vaut pas grand chose, mais lors des les deux saisons précédentes, pas celle d'avant, mais celle les deux précédentes, donc les deux où le Real gagne la Liga, c'est lui qui marque à chaque fois les buts du succès. Et d'ailleurs, ça a été son importance a été croissante, vu que la première saison il marque juste le but de la victoire, le but du titre, et puis la deuxième saison il marque le but du titre également, mais il marque aussi 2-3 buts sur les journées précédentes. Donc en gros, petit à petit, il commence à exploser. L'an passé, il explose carrément, et là au final, c'est toujours Benzema qui va jouer, et Benzema Raoul et Raoul Higuain, toujours les petites combines pour justement pour ne pour se pour faire jouer Raoul. Et puis l'autre question, c'est de toute façon, on en revient toujours à la question pourquoi avoir viré Robben, pourquoi avoir viré Schneider, pourquoi avoir viré Negredo.
Ouais.
Pourquoi avoir viré Negredo?
Mais c'est vrai que par rapport à Higuain, là où je pense beaucoup de ce que peut dire Fred Armel ou les autres journalistes français, à mon avis, ils se basent sur le match. Alors je sais plus contre qui c'était avant le match de Séville en championnat, je crois. Où il est titulaire et où il est alors complètement transparent. Je crois qu'il sort à la 70e, alors je sais plus contre qui c'était. Mais alors ce jour-là, c'est vrai qu'il était décevant pour l'une des. Ah, c'est même le match de ce début de saison où il aurait dû saisir sa chance. Il a absolument rien fait du match. Mais bon, d'un autre côté, Benzema, c'est un peu pareil. Mercredi, il provoque un penalty, mais il fait rien d'autre du match, quoi. Non, mais c'est Benzema, vrai que Higuain à la place de Benzema, c'est pas forcément illogique.
C'est pas question de pas illogique.
dans un monde juste, c'est la constante. C'est Higuain d'abord et Benzema ensuite. Parce ouais, que
je suis d'accord.
Le pire dans l'histoire, c'est que on est en train de se branler parce que Benzema a marqué un doublé contre Tenerife.
Ouais.
Tenerife.
Oui.
Je veux dire, j'adore écouter Téléfoot me dire ça, alors que moi, j'y vais au stade à Tenerife, je la vois. Je vais encore au stade demain, d'ailleurs. Ils sont
merdiques
contre Hélès. Ils sont merdiques, vous n'avez même pas idée. Ils sont mauvais en défense, mais ils sont mauvais. D'ailleurs, Aragoneses, leur gardien, qui est assez bon, il fait son pire match contre eux. Mais comme je l'avais dit lors d'une émission, sur le deuxième but de Benzema, il est en train de protéger son poteau. Mais pas, genre, il couvre le premier poteau. Non, non, il protégeait le poteau. Il ne voulait pas que la balle tape sur le poteau. Donc si ça va de l'autre côté, ce n'est pas grave. Au moins, il a protégé le poteau. C'est bon, il a couvert son poteau. Donc voilà, au bout d'un moment, marquer un but contre Tenerife, j'aimerais dire encore heureux. Donc voilà, c'est encore une fois la comment on va dire ça, la fameuse manipulation de l'info de Téléfoot. Et bon.
Ouais, non, mais c'est ça, Téléfoot. D'un côté, ils disent les grands joueurs sont surtout là dans les grands matchs, mais d'un autre côté, ils se branlent sur un doublé contre une équipe de
basket. Les grands joueurs sont surtout là dans les grands matchs, mais les Français sont toujours là.
Voilà, les Français, dès qu'ils sont là, c'est très bien, quoi. Donc, bon.
Bah, de toute façon, il faut même de l'appropriation. À partir du moment où maintenant, Drogba est considéré comme un Français, voilà. Bah, si, il n'y a pas d'autre raison pour qu'on ait tous les week-ends un reportage exclusif pour la 32e fois de l'année avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Allons-y. Et puis, on voit toujours la même image. Drogba, ensuite. Ensuite Ralph Lauren dans son lit, genre il dort ensuite Ralph Lauren, il dit en polo, tranquille, pépère, parce que Drogba, il a la classe, et qui nous explique, avec sa petite voix mielleuse, ouais, demain c'est un match très important, on reçoit après, l'Ouganda.
Après tu le vois dans les vestiaires.
En plus, et voilà, il est là, il t'explique, l'Ouganda c'est une équipe dangereuse, on battu quand même 1-0 le Swaziland. Et ensuite, on a la traditionnelle séquence avec Drogba dans les vestiaires, avec son maillot, avec le brassard de capitaine. Et très important, il est tellement arrogant que son brassard de capitaine, il l'a juste 4 fois. Donc, pour bien montrer que c'est le capitaine, avec le petit discours, avec les mains levées au ciel, position Jésus noir, en nous expliquant, les gars, on le fait pour la patrie. La patrie est déchirée. Laurent Gbagbo, quand même, les gars, on va pas mourir encore de faim. Et puis quand ils vont, voilà, au bout d'un moment, faut arrêter. Franchement, Benzema est mauvais. La seule excuse qu'ont les gens, c'est de dire qu'Higuain est décevant aussi. D'accord, certes, Higuain est décevant aussi cette saison. Mais au final, Higuain a quand même d'autres références que Benzema. Finalement, Benzema, c'est parce qu'il a marqué un but contre Manchester, donc maintenant c'est considéré comme le nouveau dieu. Il a marqué contre Manchester, et alors ? Valbuena, il a mis une frappe de 25 mètres à Anfield. Donc voilà, quoi, il faut se calmer un petit peu là-dessus. Et oui, je m'arrêterai un jour, Julien, parce que là, franchement, je commence à arriver au top de mon top.
Ouais, parce que là, je sens que...
Là, ouais. Là, comme...
T'es un peu le Raoul de la radio.
Je marque beaucoup de salive. Je manque de salive. Bon, là, j'avais qu'une blague sur le porno, donc je vais arrêter là. Et je continuerai sur Raoul une autre fois.
Eh bien, encore merci, Habib. Et puis donc, on va pouvoir passer au
quiz. Merci pour cette courte, pour cette intervention courte.
Oui, très courte sur la Liga. Non, mais c'était très intéressant.
Alors, on va passer au quiz. C'est normal, c'était moi.
Tout à fait. Alors, on va pouvoir passer au quiz. Alors, je rappelle que la semaine dernière, il n'y a pas eu, et qu'il y a 2 semaines, le dernier vainqueur, ça a été Pierrot. Alors, ce soir, j'avais un peu d'idées, donc j'ai changé les règles. Alors, avant de commencer, je voudrais savoir déjà qui fait le quiz. Alors, Yac, est-ce que tu fais le quiz ?
Oui.
Roméo, est-ce que tu fais le quiz ?
Oui.
C'est mieux pas, non ?
Aviv, est-ce que tu fais le quiz ?
Oui.
Hugo, est-ce que tu fais le quiz ?
Yes, we can.
Julien, est-ce que tu fais le quiz ?
Tout à fait.
Non, là, tu devais dire oui, nous le pouvons.
Et Valentin, je sais pas le dire.
Oui, je fais.
Eh bien, comme nous sommes 6, comme vous êtes 6, je veux dire, eh bien, on va faire des équipes, et j'ai déjà fait le tirage au sort. Alors, j'annonce que
mais Jules... Mais non, va... t'es en présence d'huissier, tu vas faire le tirage tout de suite.
Le fameux maître ambulance.
Ben, le tirage donne que Julien est avec Iac, Habib est avec Roméo, et Hugo est avec Valentin. Vous avez bien noté tout ça? Vous avez bien noté avec qui vous êtes? Ou je rappelle?
Ouais, moi, c'est bon, hein. Je m'en rappelle et ça me fait mal.
Génération Suckers, en partenariat avec l'AS Beauvais.
Ça fera et c'est parti. Et c'est donc parti pour le quiz. Alors, je vais énoncer les nouvelles règles. Alors, il va y avoir plusieurs questions. Vous allez chacun passer trois fois chaque équipe pour des questions à 3-1 qui ont une valeur de 1 point. Et à partir, une fois qu'on aura fait chaque équipe aura passé trois questions à 1 point, on va passer aux questions à 2 points. Et cette fois, ce ne seront pas des questions spéciales sur la Ligue des Champions ou l'équipe de France. Ce seront des questions sur des matchs importants de Ligue des Champions ou du Championnat de France. Et il faudra que vous me dites... Et l'équipe qui engrangera le point sera l'équipe qui aura su dire le plus de joueurs ayant participé à ces rencontres. Chacun son tour, vous devrez dire un joueur remplaçant ou qui est rentré en jeu ou qui a été ou titulaire qui a joué lors de cette rencontre, je ne sais pas, par exemple lors de Lyon-Lens en 2002. Sachant que j'ai fait des rencontres, il y a trois rencontres, j'ai fait une rencontre qui a eu lieu l'an dernier, une rencontre qui a eu lieu il y a 4 ans, une rencontre qui a eu lieu à 7 ans, comme ça tout le monde est à son niveau et tout le monde peut participer au jeu parce que la semaine dernière, enfin la dernière fois que j'ai fait, il y avait des questions où certains ne savaient pas du tout.
Oui, oui monsieur.
Voilà.
Oui,
monsieur. Je suis obligé de refaire le règlement parce qu'il y a forcément un problème.
Je rappelle juste que la semaine l'autre fois, j'ai été dangereusement spoilé.
Alors, est-ce que vous êtes prêts pour commencer?
C'est quel ordre?
Alors oui, j'ai oublié de dire. L'ordre des équipes, c'est d'abord Juliac, Habib Roméo et Hugo Valentin.
Ah, on va vous mettre la pression d'entrée, les gars.
Alors là, on commence par les questions à 1 point. C'est chaque équipe à son tour. Vous êtes prêts?
Oui.
Ouais.
Alors Juliac, qui est le dernier vainqueur du championnat avant Lyon?
Nantes.
Oui, 1 point pour vous.
Ah, la course en tête, je le savais.
Ouais, on va mettre la pression à tous les points maintenant.
Alors, Habib et Roméo, je veux le meilleur buteur du championnat lors de la saison 2003-2004.
Saison 2003-2004, c'est pas drôle, tenté pas. De dire...
Non, c'est pas drôle, hein, je te dis.
C'est Fry, il me semble.
Non, ce n'est pas Fry, c'était Djibril Cissé. 0 point.
Par contre, il faudrait mettre le play contre Marseille. Et bah, Marseille est tout seul à un moment.
Ouais. Oui. Alors, Hugo et Valentin, quel est le meilleur passeur de Ligue 1 lors de la saison 2008-2009?
2008-2009, ça remonte à quand?
C'est l'année passée. Jérôme Leroy, non, c'est pas.
Non, je n'en ai pas la moindre idée, alors.
Vite une réponse.
Jérôme Leroy, mais non.
Non, c'était Michel Bastos. Donc il n'y a que Ju et Yac qui pour l'instant mettent un point.
Ah, la pression, la pression.
Alors, à vous, Ju et Yac, je veux quel était le plus gros transfert de Ligue 1 lors de la saison 2001-2002?
2001-2002, c'est pas Anelka?
Si.
Ah, voilà.
Un point pour
Yac, joué.
Meilleur
Roméo. Transfert d'histoire au passage.
Habib et Roméo, en 2002-2003, qui est le dauphin de Lyon?
2002-2003.
Oui.
Ouf. Paris Saint-Germain. Non, c'est
Monaco.
Non, c'est pas Monaco.
Roméo, un point.
C'est Monaco, il a dit.
Ah, mais c'est.
Il fut une époque.
Hugo et Valentin, quel ancien joueur de Bordeaux est le meilleur buteur du PSG lors de la saison 99-2000?
Oh là là, le vieux blanc.
Esteban.
Ouais, je pense. C'est quoi, t'as dit quoi? 99-2000.
Oui.
Ils sont tardés.
Ancien joueur de
Bordeaux.
Oh, c'est bon là. Oh.
Tu veux pas que je te passe le lien Wikipédia aussi, non?
Allez. Non, mais non, mais non. Putain, je le trouve.
Une réponse.
Ouais, mais ils ont pas trouvé, ça se voit.
C'est mort là, c'est bon.
On va bien vous passer. La réponse, c'était Christian. Le célèbre brésilien du PSG.
Il a joué alors, après.
Mais continue avec les Quidam, c'est bien.
D'ailleurs, une question, parce que tu parlais d'équité. C'est quand que Yac et Julien ils vont avoir les questions dures?
Regarde comment ça s'est énervé.
Juste une question comme ça.
Et ben là, justement, Jules et Yac, en 2002-2003, Guingamp finit 7ème. Accepte-t-il à une coupe européenne?
Intertoto, ça compte?
Oui, ça compte, Intertoto. Ah, donc oui ou non?
Oui. Pour l'Intertoto, ouais.
3 points. Oui.
Ah, ça c'était la question dure?
Oui.
Ok.
On ne conteste pas
oui
le maître du...
D'accord.
Alors, Vibre Roméo.
Moi aussi, je veux une question oui ou non. Hein.
Est-ce que tu piles si c'est un homme? Oui.
Lors de la saison 2005-2006, quel est le meilleur buteur de la Ligue 1?
Oui.
2005-2006.
Oui.
C'est facile ça.
Paoletta.
Oui. Oui, deux points pour vous. Hugo et Valentin, marqué.
Tu dis Paoletta.
Marqué un point. Alors, Hugo Valentin. En 2000-2001, Lille finit 3ème de Ligue 1. Quel est son entraîneur? Oui, un point pour vous.
Ah, mais attends. Et après, on dit que nos questions sont faciles.
Excuse-moi. C'est la première question très facile qu'ils ont. Bon, celle de Bastos, elle est assez facile.
Pas la mort.
Oui.
Ouais,
non,
mais les autres. Dis donc, toi, t'as la question, qui a gagné le championnat avant Lyon? Genre, il y a un mec qui veut dire Lyon.
Non, mais il y a certains qui. Mais pour certains, c'était peut-être une question difficile. Je ne sais pas.
Ah bon?
Enfin, pour moi, j'ai trouvé.
Snoops, Pikachu ou le nain jaune? À vous de trouver la réponse. Et attends, le mec,
bon,
il te fait.
On va passer aux questions.
Et juste, excusez-moi, un petit aparté rapide. Le mec, il vient de dire ah, c'était ça la question facile. Il vient d'avoir une question oui ou non.
Bon, bref, on va passer aux questions à 2 points avec, et qui peuvent devenir à 3 points avec point bonus à l'équipe qui a joué. Alors, je vous explique, c'est tout simple. Par exemple, je donne un match qui a eu lieu en 2002, Lens-Lyon, et vous devez me dire les 22 joueurs qui étaient présents sur la pelouse au début du match et les remplaçants. Et en fait, c'est la première équipe qui peut plus me dire de joueurs sur la première équipe qui peut plus me dire de joueurs sur la, qui dit un mauvais joueur ou qui peut plus en dire éliminé, et ainsi de suite. C'est la seule équipe qu'il faut dire encore
deux joueurs. Ouais, mais ça finit au Wikipédia, ça.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Va falloir aller vite.
En plus, je le dis, moi, je m'en fous parce que de toute façon, le chef du Wikipédia, c'est Roméo, mais.
Non.
Non, mais je compte sur.
Tu vas finir avec.
Ah, je l'avais,
J'ai confiance en vous. Alors, c'est parti. En plus, le premier match que je demande, moi normalement, vous devez tous savoir. C'est OM Lyon 2009, 1-3 pour Lyon. Alors, je veux les 22 joueurs titulaires au début du match et les 4 remplaçants. À vous de jouer. Alors, on commence par Juillac, un joueur.
Oh, vas-y,
ça fout gueule, là.
Ah, je te laisse l'honneur, vas-y, je te laisse l'honneur.
Juninho.
Oui, c'est bon, il est rentré au cours du match. Habib et Roméo.
Wiltord.
C'est bon. Hugo et Valentin.
Benzema.
C'est bon. Jus et Yac.
Mandanda.
C'est bon. Habib et Marvolo.
Habib et Marvolo.
D'accord. Habib et Roméo aussi.
Je me kiffe, mais pas à ce point-là non plus. Même moi, je le fais pas.
Hilton.
C'est bon. Hugo et Valentin.
Sibeli.
C'est bon. Jus et Yac.
Bah, Lloris.
C'est bon. Habib et Roméo.
Brandao.
C'est bon.
Toum toum tch.
Hugo et Valentin.
Bonnard.
C'est bon.
Toum toum tch.
Zu et Yak.
Bah, Toulalan.
C'est bon. Habib et Roméo.
Théo.
C'est bon. Hugo et Valentin.
Makoun.
C'est bon. Jus et Yak.
Ederson.
C'est bon. Habib et Roméo.
Valbuena.
C'est bon.
Je suis assez. Hugo et
Valentin.
De vous.
C'est bon. Jus et Yak.
Chris.
On pourra arrêter la musique là?
Ouais, c'est bon. Habib et Roméo.
Je vais tenter au pif Koné.
C'est bon, rentrez en cours de jeu. Hugo et Valentin.
Pour Boomsong, il a déjà joué.
C'est bon. Ju et Yak.
Grosso.
C'est bon, il est rentré en cours de jeu.
Putain.
Habib et Roméo.
Patrice Bégéorgie.
C'est pas bon.
Non, non, j'en ai plus, j'ai pas envie. Non, honnêtement, j'ai pas envie de chercher sur Google, ça sert à rien. Donc... Non, j'en ai plus, j'en ai plus.
Habib, plus rien non plus?
Je sais pas, j'ai pas écouté.
On sent la rage de vaincre.
Ah bon, si, Habib, attends,
l'esprit
attends,
t'accompagne.
J'en ai un. Sana.
Oui, c'est bon. Ouf. Hugo et Valentin.
Brandao.
Il a déjà dit.
Eh, donc il a perdu. Il a perdu.
Oui. Perdu. Éliminé. Éliminé.
Quoi, c'est Zanel?
Hugo.
Non.
Allez, on retourne en Lorraine.
Non.
Allez.
T'as pas perdu. Et puis c'est tout.
J'en ai un, moi.
Ah, Valentin.
Trop tard. C'est mort.
Non, mais c'est trop tard. Il a dit Brandao.
Non, ouais, j'ai pas dit trop... j'étais à Brandao. J'ai éternué.
Ah oui, genre, tu. Ouais. Pas la tu parlais à ton nounours, Brandao, évidemment. Non. Ou à ta sœur, qui s'appelle Brandao.
Tout va se jouer entre Habib et Roméo, Hugo et Valentin.
J'ai tiré la chasse et sans faire exprès, j'ai dit Bégéorgie.
Jus et Yak, un joueur.
Bah, Rémière.
Ouais. Oui, c'est bon. Habib et Marvolo.
Mandanda.
Déjà dit.
Déjà dit.
Ah voilà. Non, j'en ai
et
pas.
Jus et Yark et Yak marquent 5 points.
Non, mais c'est fini.
Marquent 2 points, ils sont donc à 5 points. Ah. Et ils ont droit à un point bonus s'ils me citent les deux entraîneurs de l'équipe.
Un bonus et 2 points bonus, c'est magnifique.
C'est ridicule. Voilà.
Ah non,
c'est le lieu de la rencontre aussi, non?
A noter que c'était à Marseille, Vélodrome.
Ah bah là on leur.
Non mais je l'ai dit au début qu'il y aurait un point bonus si vous me disiez les entraîneurs après. Voilà.
Jacques Santini.
Donc en gros c'est comme la double sanction, hein. Penalty carton rouge, alors c'est terminé.
Soyez pas mauvais perdant les gars.
Voilà. On va passer au deuxième match.
Marquer un essai en face des pénalités, c'est ça.
Non, mais le problème de ce genre de quiz, honnêtement, c'est que ça finit au Wikipédia, donc c'est pas marrant.
Non.
J'ai entendu le clavier d'Hugo.
Moi, honnêtement, je regarde même pas parce que. Honnêtement, je veux pas faire le rabat-joie, mais je regarde même pas parce que bon, je sais que. Ça finit au Wikipédia. Hein.
Eh oui.
Mais non. Il faut avoir confiance.
Ouais, bah oui. C'est vachement une de mes qualités, ça.
Okay, hein, ouais. Moi, je propose qu'on ne compte pas cette partie.
Oh, regarde-moi ça.
Non, mais c'est vrai.
Bah, on va changer le jeu, alors.
Non, bah, on les compte, attends.
Honnêtement, deux têtes, en tant que supporter marseillais, je pouvais pas citer l'équipe type lyonnaise, tu vois.
Ouais, attends, c'est bon, ouais, arrêtez de vous plaindre. J'ai perdu, c'est tout.
Ouais. Mais le problème étant que je n'avais plus que ça comme jeu après.
Eh ben c'est fini, on a gagné, bravo.
C'est mal fait tout ça.
Non, bah, mais... c'est...
Ils ont gagné.
C'est un scandale.
C'est bon, bah, quand on est meilleur, c'est tout.
Bah oui, hein, c'est ça, c'est comme ça, ça arrive. Hein.
Oui, c'est la rage de vaincre. Oui, vous avez gagné.
Tout à fait.
Dans le Vonnie Champion.
Alors.
Et qu'est-ce qu'on a gagné?
Alors, quoi, alors, c'est soit, c'est on soit on continue, soit Jules et Yac sont nommés
bon, vainqueurs du quiz.
On continue, de toute façon, on gagnera quand même. Donc.
D'accord, alors le prochain match, c'est la finale de Ligue des Champions 2005, Milan AC Liverpool. Je veux les les joueurs, les 24 joueurs plus les remplaçants, les 22 joueurs sur la pelouse plus les remplaçants du Milan AC.
Attends, je donne la page d'accueil de Google, comme ça, ça sera plus rapide. Tenez, vous aurez plus qu'à chercher directement maintenant.
Non, il n'y a pas de chercher.
Ça va être Liverpool, Milan AC 2005, Ligue des Champions. Hein.
Bon, on commence. Alors, Juillac, un joueur du Milan AC ou de Liverpool?
Crespo.
Bon. C'est bon.
Rotel.
Abim Marvolo.
Et ben,
Abim Marvolo.
Abim Marvolo, c'est pas mal.
Roméo Marvolo. Comment?
Jerzy Dudek.
Oui, c'est bon.
Ah bah ouais, mais...
Hugo Valentin.
Steven Gerrard.
C'est bon.
Xabi Alonso.
C'est bon. Roméo et Marvolo.
Ah, je vais tenter un joueur que j'aime bien, qui a joué au Milan, mais je sais pas s'il a joué à la finale.
Attends. Non, parce que celui-là, je suis sûr de le gagner, donc j'attends que tu... Je te confirme.
Alors, je te propose à Habib Serginho.
C'est bon.
Toi, t'es un vrai crétin, toi.
J'ai dit putain, que je à
on fait le final Milan Liverpool. Tu dis Stam, tu dis Maldini, tu dis pas Serginho tout de suite.
Suite.
Quel coup de Stam. Excuse-moi, mais Maldini et Stam, ils vous connaissent, les gars.
Ouais, non, mais ça nous fait toujours un truc en plus.
Hugo Valentin.
Dida.
Dimitra, ouais.
C'est bon. Juillac.
Bah, alors est-ce que Maldini compte ou pas, du coup?
Ah bah ça
a Maldini compte. Ouais.
Ah bon bah c'est bon.
Qui marque un but.
Habib et Roméo.
Moi Romeo. Juste pour enculer Hugo, je vais dire Jimmy Traoré.
C'est bon. C'est bon. Hugo et Valentin.
Jimmy Traoré.
C'est bon. Jus et Yak.
Merde. Bah c'est pas grave, je vais dire Pirlo.
C'est bon.
Oh, c'est dur ça.
Habib et Roméo.
Bah, je viens d'aller aux toilettes, donc je vais dire caca. Hein.
C'est bon. Hugo et Valentin.
Bah, je vais dire Shevchenko.
C'est bon. Jus et Yak.
Gattuso.
C'est bon. Habib et Roméo.
Rize.
Rize, il a pas joué, tais-toi. Bon. Rize, il a pas joué.
Oh, ah oui. Si, il a joué.
Sûr.
Sûr à 100%. Hugo Valentin.
Ah oui, oui.
Smisser.
Ah oui,
c'est bon.
Putain,
non,
j'allais dire.
Jus et Yak.
Thomasson.
C'est bon.
Ok.
Habib et Roméo.
Ah putain. Djibril, si c'est. Djibril.
C'est bon. Hugo et Valentin.
Luis Garcia.
C'est bon. Jus et Yak.
Allô.
Moi j'ai un.
Vas-y.
Aman.
C'est bon. Habib et Roméo.
Thomasson.
Déjà dit.
Final.
Éliminé final. Habib et Roméo.
T'es un abruti. Quand je te dis que je connais et que tu répètes celui qui vient de dire, c'est que t'es vraiment un.
Hugo Valentin.
Harry Kewell.
C'est bon. Jus et Yak. C'est bon, Hugo et Valentin.
Non, Barros.
C'est bon, Jus et Yak.
Rui Costa.
C'est bon, Hugo et
Sissoko.
Valentin.
Sissoko.
Perdu.
Il n'a pas joué Sissoko.
Et là, il était sur le
perdu,
banc.
Perdu, Jus et Yak mettent.
Sissoko était même pas
points.
Sur le banc. Hein.
C'est un festival, non. Je tiens à le dire.
J'ai envie de dire, ouais.
Un cavalier seul, un bon moment.
Bon, maintenant vous allez nous donner vos sites.
Attends, c'était pas très dur, sérieusement.
Bah bien sûr que c'était pas dur, mais l'autre abruti répète, quel con.
Bon, au vu du reste des quiz...
Franchement, il manquait Xabi Alonso, il manquait Ipia...
Non, on l'a dit.
Ouais, Alonso, on l'a dit.
Connard. Vu qu'il ne reste qu'un quiz, on peut déclarer Jus et Yak grand vainqueur du quiz de ce soir.
Ah,
et
on va
départager pour la deuxième place Habib et Roméo, Hugo et Valentin, avec
les
derniers quiz.
D'honneur, allez-y les gens.
Voilà.
On vous laisse.
En même temps, je suis avec Roméo, hein.
Alors, c'est vrai.
Connard.
Je veux les 22 joueurs...
Mais t'es con, Serginho, quand tu l'as dit, je t'ai dit tout de suite, dis pas les remplaçants. Connard. Il y avait Rui Costa aussi, que tu t'avais qu'à dire Rui Costa dès le début, t'aurais gâché une bonne munition, connard.
Vous devez dire les 22 joueurs plus les remplaçants de la finale de la Coupe du Monde 2002, Brésil-Allemagne. C'est parti. Habib Roméo, un joueur.
Je te jure, tu dis Balak, je te gifle.
En plus, c'est ce que j'allais dire. Non, vas-y, je te laisse parler.
Ronaldo.
Bah, Rivaldo.
Hugo, Valentin, Rivaldo. Ouais.
Bonjour.
Roméo. Habib Roméo, à vous.
Et Yak qui ne joue pas.
Non, ils ont déjà gagné, donc là, c'est pour la seconde place.
Je peux parler là, Habib.
Vas-y.
Ronaldo.
Il vient de le dire il y a 10 secondes.
Ridicule.
A qui de la douleur? Environ 10 secondes.
Et bah,
j'ai pas entendu. Non, je suis désolé, j'ai pas entendu.
Bon, on te l'accorde. Parce que ça fait assez ridicule de faire ça.
Excusez, obstruction.
C'est ridicule.
Tu sais ça, c'est quoi? Je te dis, c'est quoi? C'est un petit peu comme si. C'est un peu comme le mec qui insulte l'arbitre. Et qu'il y a toute la tribune qui le pointe du doigt. Même moi, j'ai envie de le pointer du doigt pour qu'il se fasse expulser.
Obstruction.
Mais hey, franchement, désolé. Qu'est-ce que tu es con comme une pine. Sérieux.
J'ai pas entendu, non, honnêtement.
Sérieux, Ronaldo.
Je propose que Roméo prenne un carton rouge. Il est expulsé du jeu à Bibrestel face à Hugo et Valentin.
Roméo,
tu es expulsé. Tu n'as plus rien droit, tu n'as droit de rien dire, seul à Bible parler.
Hey, je demande juste un truc. Je demande juste un truc. Attends, juste un truc. Je te posais juste une question. Est-ce que les deux en question là, ils ont Wikipédia devant eux? Hugo et Valentin.
Moi, je te le jure que non.
Et toi, Hugo?
J'ai la page de Liverpool, c'est tout.
D'accord. Parce que là, sur l'Allemagne, je les baisse. Sauf s'ils ont Wikipédia.
C'est parti alors. Hugo, Valentin, la main est à vous. À vous de jouer.
Oliver Kahn.
Bah, Cafu.
C'est bon.
Bah alors Cafu.
Habib.
Alors Cafu.
C'est bon. Hugo, Valentin.
Et puis Roberto Carlos.
C'est bon. Habib.
Roque Junior.
C'est bon. Hugo, Valentin.
Marcos.
C'est bon. Habib.
Aman.
C'est bon. Hugo Valentin.
La personne.
C'est bon. Bon. Habib.
Gilberto.
C'est bon. Hugo
J'ai
Valentin.
J'ai gardé les Allemands à la fin, moi.
Hugo Valentin.
Metzelfer.
C'est bon. Habib.
Frings.
C'est bon.
Ouais,
Hugo Valentin.
J'ai réfléchi.
Non.
Allez.
Moi je dirais.
José.
Moi je dirais bon. Ronaldo.
Dehors. Habib.
Close.
Déjà dit.
Ah ouais. Ils ont dit quand oui. Close. Ils ont dit quand close.
Mais ça cause un petit qui arrive juste là.
Oh putain.
Mais il y a Roméo. Qui arrive aussi en même temps, moi j'ai même pas entendu aussi, donc à rejouer.
Ah non, moi
donc, c'est toujours ma faute, hein.
Non, mais
Hugo Valentin. Pas que je te toque. Non, mais c'est bon, ils ont gagné alors, si ça a été déjà dit.
Ils ont. Donc, Jus et Yak, premier avec 8 points. Hugo Valentin.
Ah non, mais ils doivent en trouver un derrière. Ils doivent en trouver un d'abord. C'est moi qui ai commencé.
Michael Chacal.
Oh là là.
Voilà, si vous trouvez pas, ça recommence.
Et je vous viole.
Ah là, je vous l'arrache, je l'ai tombé.
J'ai l'air de poule.
Non, moi je vous viole. Alors, heureusement, sur le match. Sur le match. Non.
Comment?
Il joue pas le match, quoi.
Non, il a pas joué Yonker.
Non, Kaka, c'est faux. Kaka, c'est faux.
Non, il a dit Yonker, il a dit.
Quoi? Ouais,
il dit. T'as pas dit Karsten Yonker, j'ai entendu.
Yonker, c'est aussi faux.
Je sais que c'est faux, moi j'ai entendu Yonker.
C'est faux aussi. Marvolo, si tu mets le point, tu peux continuer à jouer.
Schneider. Non, mais moi je l'ai, j'ai les Allemands.
C'est
moi,
bon.
Moi je suis un ouf, j'ai les défenseurs allemands. C'est avec ça que je vais gagner, moi.
Hugo Valentin.
En théorie, s'ils n'ont pas trouvé avant, ils ne font pas trouver après. On va voir s'il y a Wikipédia ou pas. Toi, t'es honnête.
Oh, il y en a un facile. Mais alors,
ouais,
facile.
Personne n'a dit.
Navalny.
Non, perdu.
Mais attends, juste avant. Est-ce que Ronaldinho a été dit?
Non, personne n'a dit Ronaldinho.
C'est celui-là qui était facile.
Moi, celui que j'avais, moi, c'était Denilson, parce qu'il est brésilien. J'avais Marco Bode, Ramelo, Linke.
Oui.
Et Juninho Paulista.
Oui,
et Juninho Paulista, celui-là, je le gardais pour la fin.
Voilà. Et tu pouvais citer Olivier Béroff et Assam Gérald.
Et Christian Zieg.
Voilà, tout à fait.
Non, mais moi, c'était sûr, je vous niquais, parce que c'est vieux, vous étiez des enfants.
Eh bien, donc, le quiz de soir est remporté par Ju et Yak, qui ont mis quand même une sacrée raclée aux autres équipes, puisque. Abby va sauver l'honneur de son équipe, puisque Roméo exclu, il a quand même réussi à marquer 2 points, ce qui fait que son équipe finit.
Alors qu'il faut avouer que techniquement, c'est LVC à Hugo 2ème, parce que l'autre abruti, 3 secondes, avec sa mémoire de poisson rouge, 3 secondes après que j'ai dit Ronaldo, il ressort Ronaldo. Au moins,
je retiendrai que l'obstruction d'Hugo.
Voilà. Pas mal aussi, mais on a préféré.
Ben voilà, c'était. Merci à tous pour cette excellente émission. Je rappelle demain à pas louper la première émission sport sur Génération Soccer, c'est à 17h avec moi-même normalement. Et puis après la super émission à ne pas louper absolument sur Génération Soccer, le spécial Classico OM PSG à partir de 20h15 jusqu'au bout de la nuit. Vous n'allez pas vous coucher, ne loupez pas absolument, c'est l'événement de l'année sur Génération Soccer. Alors à demain. Absolument. Bonne soirée tout le monde. Et merci à tout le monde.
Attends.
Et merci à tout le monde pour ça. Bonne soirée.
Je rappelle juste.
Oui, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît Objectif Tarot en réseau, qu'il mette, j'ai un problème.
Ta gueule. Je rappelle juste que l'an passé, on avait eu un coup de génie de ma part en pronostiquant la victoire 3-1 du Marseille au Parc. À voir si demain je refuse. Non, j'attends demain. Et je vais voir si je vais revoir. Voilà. Ah, monsieur Géron, vous m'envoyez tous des photos de votre cul ou de votre bite, un truc, pas de.
Eh ben merci à Bib, et puis donc, ne loupez pas demain la super journée sport, et surtout le classico au MPSG sur Génération Soccer. Soyez à l'écoute, bonne soirée tout le monde, merci de nous avoir écoutés, et à la prochaine, au revoir, bonne soirée tout le monde.
Salut!